Alors, avant que je prenne la parole, je vais vous la donner. Et donc, on va essayer de noter rapidement comme ça, pas forcément que chacun parle, voilà, ce qui va jaillir. Donc, si je vous dis tradition, qu'est-ce qui vous vient là, tout de suite là, en positif, en négatif, en...
Mon père de l'Église.
Père de l'Église.
C'est facile, d'abord.
Transmission orale.
Conformisme.
Conformisme.
Qu'est-ce qu'il y a dit, conformisme?
Continuité.
Continuité.
Orthodoxie.
Orthodoxie. Merci.
Tu as un stylo noir qui est à l'autre bout. À l'autre bout, peut-être il marchera mieux.
Lien. Partage.
Partage.
Référence au texte.
Référence au texte.
Mémoire.
Ah, ça c'est un terme de prix. Mémoire, par contre, c'est un terme de prix. Mémoire, c'est. Vous allez voir, c'est très bien. Oui. Et au niveau de la sensation intérieure, est-ce que vous pourriez me donner. Voilà. Tradition, ça, c'est quoi la sensation?
Lourdeur pour moi.
Lourdeur.
Lourdeur.
Pour moi, c'est l'appartenance.
Appartenance.
Justice, mais
fondement.
Fondement. Sécurité. Ah, c'est divers, hein.
J'ai entendu mezzo voce carcan.
Carcan. C'est encore à ta droite, là?
Non, c'était à ma gauche.
Non, c'est encore là. Alors, le carton, donc, il était avec conformisme.
Oui. Mais c'est des choses qui.
Mais c'est. J'ai pas encore parlé.
Des choses qui sont mises à quelque chose.
Oui, ça va aller à
l'ordre. Carton, conformisme, ça m'a fait lourdeur. Mais il y a du négatif, il faut le dire. Moi, ça, c'est pas le plus. Il peut y en avoir. Héritage. C'est très bien. Héritage.
Mais c'est pas lourdeur.
Oui. Bon, est-ce que tout est sorti?
Il y en a déjà pas mal.
Il y en a déjà pas mal. Donc, père de l'Église, transmission orale, conformisme, carcan, lourdeur, on les a mis ensemble, continuité, orthodoxie, lien, partage, référence au texte, mémoire, appartenance, fondement, sécurité, héritage. Tout ça, c'est juste. Hein. Tout ça, c'est juste. Maintenant, il va falloir qu'on ordonne. Alors, avant de vous parler de la tradition de l'Église, hein, parce que, évidemment, on va en parler, mon thème étant la tradition, je n'avais pas. Je voudrais essayer un tout petit peu qu'on réfléchisse à qu'est-ce que c'est la tradition en général. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a que les chrétiens ou que ceux qui sont dans une tradition religieuse qui auraient une tradition, ou est-ce que les autres ont une tradition? Comment?
Il y a d'autres traditions.
Bien évidemment. Voilà. Alors, voilà. Donc la première chose, c'est le mot tradition en français vient du latin tradere, ça on le sait. Tradere, ça veut dire transmettre. Et le mot grec, alors, écoutez comment il sonne ce mot grec, paradosis. C'est... Moi, ça me fait penser à paradis, hein, d'accord?
C'est paradoxe.
Paradoxis,
c'est
paradoxe. Paradoxe.
Paradoxe.
Voilà,
paradoxe.
Et premier sens de paradoxis, c'est transmission, avec l'idée de transmission par succession. Donc ce mot succession, il n'est pas sorti là, mais il est très important. Et deuxième sens, remise, livraison. Donc c'est l'idée de, on transmet un paquet, quoi. Voilà, donc voilà. Et ensuite, troisième sens, transmission verbale, donc c'est le bali, hein, donc c'est l'officiel du grec ancien. transmission verbale ou écrite, d'où transmission de récits, de doctrines, de traditions.
Et alors en hébreu, c'est Kabbalah.
Kabbalah.
Kabbalah. Tu veux nous l'écrire dans le tableau ?
Donc comme voilà. Alors en hébreu, moi j'hésitais parce qu'en plus j'ai cherché dans le Nouveau Testament, enfin j'ai cherché dans la Bible le mot tradition. Je ne l'ai trouvé que dans le Nouveau Testament.
Comment tu veux l'écrire ?
En hébreu.
Ah.
Si tu veux qu'on écrive en français.
Ici là.
En haut là, à droite là, voilà, très bien. Kabbalah. Kabbalah, ça vous dit quelque chose, Kabbalah.
Oui, bien sûr, Kabbalah.
Kabbalah, alors, moi ça me gêne que ce soit traduit comme ça. Pourquoi ? Parce que le mot Kabbalah ne veut pas dire transmission, veut dire réception. Mais en même temps, c'est très intéressant. Si, parce que donc, ce mot transmission n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, donc on n'a pas d'hébreu, hein, puisque le Nouveau Testament est en grec, mais nous avons une rétroversion du Nouveau Testament du grec à l'hébreu, et dans cette rétroversion, vous me suivez ? Le mot tradition est retranscrit, comme nous on l'a transcrit en français tradition, et transcrit en hébreu Kabbalah. D'accord ? Et Kabbalah, c'est un Kabbal. Et Kabbalah, ça veut dire réception. C'est après que c'est devenu un mouvement mystique, etc. Et le mot Kabbalah, c'est Kabbalah. Si vous allez dans un hôtel en Israël, vous arrivez à la porte de l'hôtel, on va vous dire allez à la Kabbalah, à la réception. C'est-à-dire le même mot chez nous. Est-ce que vous achetez quelque chose, on vous dit, est-ce que vous voulez une Kabbalah ? Un ticket de... Voilà,
on m'a dit ça à la poste, j'étais complètement...
Qu'est-ce que c'est ? Vous avez besoin d'une Kabbalah, d'un ticket qui a reçu. Donc c'est intéressant parce que ce mot réception n'est pas apparu dans ce qui est sorti là.
Ouais.
Et ouais. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de transmission s'il n'y a pas de réception. C'est logique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la mentalité sémitique va mettre l'accent sur l'aspect de réception, alors que nous, que ce soit en grec ou tradéré en latin ou tradition en français, on met l'accent sur l'aspect de transmission. Comme si on s'occupait davantage de ce qui vient de l'aîné vers le plus jeune et moins de la façon dont c'est reçu. Alors que la tradition sémitique va dire comment c'est reçu. Est-ce que c'est reçu ? C'est ça le plus important. Donc vous sentez déjà, on est déjà sur... C'est très, très, très intéressant au niveau du vocabulaire. Merci. Alors, si jamais tu continues à regarder, j'aimerais bien qu'on regarde, Maccabée.
Maccabée.
Tu n'as pas ta Bible en hébreu, par hasard ?
Oui, c'est sûr.
Avec
Anne-Marie,
on ne peut pas ne pas avoir ta Bible. Bon.
Mais je n'ai pas la trouver là, il y a la Maccabée ici.
Ah bah oui, c'est vrai. Non, mais la Maccabée sont en grec, je suis trop.
Bah oui.
Non, donc c'est le même problème. Ok. Ok. Donc, première chose, donc, pour nous, il y a une idée de transmission. Et donc l'idée, effectivement, d'un héritage qui nous est transmis, et là aussi c'est sorti, c'est un héritage qui est transmis normalement dans les sociétés, ou dans les familles, ou dans les États, de manière orale. C'est une tradition orale, la tradition. C'est-à-dire, il y a les us et coutumes, il y a ce qu'on dit oralement de génération en génération, comment on transmet des idées, des faits, des... Voilà. Alors, souvent, c'est des paroles accompagnées d'actes, de gestes. Et c'est lié aussi, évidemment, à la culture. La culture étant un des vecteurs les plus puissants de la tradition. Et dans la culture... Il y a la langue. La langue fait partie de la tradition. D'ailleurs, souvent on dit, surtout nous dans les orthodoxes, ah oui, mais là c'est la paroisse romaine, là c'est la paroisse russe, ils parlent romain. Et on dit, mais c'est leur tradition. C'est leur tradition. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut aller contre quelqu'un qui se sent bien dans une langue, surtout s'il veut célébrer dans cette langue, est-ce qu'on va lui dire, bah non, c'est interdit ou, Et cette tradition va véhiculer une mémoire collective qu'on pourrait presque appeler une sagesse collective. Et la tradition, c'est quelque chose qui... C'est l'idée de quelque chose qui va faire ses preuves à l'intérieur d'un groupe humain, même si parfois on ne sait pas ni où, ni comment, ni pourquoi. Mais ça fait ses preuves et ça s'inscrit et ça s'installe de génération en génération. Et la tradition, on peut dire... Et donc c'est pour ça que la personne qui a dit mémoire tout à l'heure, va jouer au niveau collectif le rôle que joue la mémoire au niveau individuel. Donc ça, c'est fondamental. La tradition, en fait, c'est une mémoire collective d'un peuple, d'une tradition religieuse, d'un État. C'est une mémoire. Donc vous sentez, si on a déjà ce mot de mémoire, toute la problématique du conflit des mémoires. Nous accueillons en France des Irakiens, des Libanais, des Roumains, chacun a sa mémoire différente. Comment ces mémoires vont pouvoir se réharmoniser dans la mémoire française? Comment ces Roumains qui débarquent, ils vont s'approprier la Révolution française dont ils n'en ont rien à faire? C'est pas leur histoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simple. Et pourtant, il faut tous qu'on soit citoyen français et qu'on ait quand même une mémoire collective. Sinon, c'est le problème de l'éclatement, justement, d'une certaine identité qui ne doit pas être cloisonnée. Mais bon, c'est la raison pour laquelle il y a eu des règles récemment pour dire, bon voilà, on ne donnera la citoyenneté qu'à quelqu'un qui parle la langue. Première chose, c'est parler la langue. Donc, vous sentez bien qu'il y a un problème. Est-ce qu'on a une mémoire collective depuis Versailles historique, c'est même avant Donc, cette mémoire, cette tradition collective, puisqu'elle joue le rôle de mémoire, c'est elle qui assure la continuité et elle assure une certaine façon d'habiter le monde. Donc, elle fonde l'identité collective d'un groupe humain. Qu'est-ce que ce serait une société s'il n'y avait pas de tradition? Là, on est perdu, on est éclaté, on est atomisé. Qu'est-ce que serait une société si elle n'avait pas une mémoire et une identité propre? Et on dit souvent, nous sommes des nains assis sur les épaules des géants. Donc c'est une phrase qui est un proverbe pratiquement. Pourquoi on dit ça? Parce que ça veut dire que depuis Vercingétorix, on a avancé quand même. Même si malheureusement l'homme est toujours l'homme et que les guerres sont toujours les guerres et les violences sont toujours les violences, n'empêche qu'on a avancé. La société avance. Donc, si on avance, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui s'est transmis, que depuis le début de ce qui deviendrait la France, on a toujours pu voir plus loin parce qu'on était juché sur les épaules de son précédent. Et donc, on voit plus loin. Donc ça, il y a quelque chose de réconfortant. Maintenant, c'est la problématique de, quand on gagne en technologie, on gagne aussi malheureusement en violence par la technologie. Et donc, est-ce que ce dont nous avons bénéficié de nos anciens, de ce qui nous a été transmis, va résister à l'épreuve du temps? Ça, c'est aussi la clé. Et quand ça résiste à l'épreuve du temps, alors, ça veut dire que c'est inscrit et qu'on peut effectivement voir plus loin que nos prédécesseurs. C'est pour ça qu'on dit toujours l'élève dépasse le maître. Et si l'élève dépasse le maître, il ne faut pas que le maître s'en afflige. Au contraire, il va être très fier. Lui, non seulement il a bien intégré, mais il fait le pas suivant, parce qu'il faut bien que le plus jeune continue pour lui-même de nous transmettre à quelqu'un qui continuera encore. Alors, première question, est-ce que cette conception serait une conception purement cumulative, où on additionne, donc une conception cumulative d'une histoire qui serait trop, ce serait trop simpliste. Et est-ce que, effectivement, on ne voit que le positif, c'est-à-dire cette tradition nous emmène plus loin, mais est-ce qu'elle n'est pas aussi une espèce d'ornière qui nous enferme dans un passé? Parce qu'on est dans la mémoire, donc on peut se cristalliser, se crisper dans un passé. Première question, Deuxième question, est-ce que si la tradition fonde une identité collective, est-ce qu'elle ne va pas enfermer, et je prends un terme de société exprès qui n'est pas le terme de l'Église, est-ce qu'elle ne va pas enfermer les individus? Mot qu'on n'emploie jamais dans l'Église.
Faut répondre.
Normalement, qu'on ne devrait jamais l'employer. En tout cas, ce ne sont pas des livres dans les textes, ça c'est sûr. Mais même entre nous, nous ne sommes pas des individus dans la vie, nous sommes des personnes. Ce qui n'a rien à voir, ça on pourra en reparler tout à l'heure pour s'il y a besoin d'explication. Et donc, s'il y a cette tension entre entre le fait d'aller plus loin et, ou bien d'être dans les ornières, d'être dans une identité collective ou bien de se sentir enfermé, de passer par une espèce de truc étranglé, quoi. On a l'impression qu'on ne peut pas donner de sa mesure, de sa liberté personnelle, etc. Voilà. Comment ? Voilà. Donc là, il peut y avoir une friction. Et donc, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, les problématiques des mémoires qui se frottent, qui ne sont pas les mêmes, et qui fait que c'est à cause de ça qu'il y a des conflits. Et parfois même des guerres civiles, à l'intérieur d'un même pays. Et donc, si je me définis entièrement à partir de la représentation dont j'ai hérité de l'histoire de mon peuple ou de ma nation, et si cette histoire, qui est mon identité aussi, ou en tout cas une partie de mon identité, va être incompatible avec celle de mon voisin, comment je vais vivre en paix avec lui ? Donc c'est tout le problème, hein. On est en train de problème actuel. Comment je vais vivre en paix avec le petit Irakien, le petit musulman, l'Afghan, qui lui... Est-ce que c'est possible ? Et donc, est-ce que je suis uniquement définie par ce que la tradition fait de moi ? Voilà. C'est-à-dire, finalement, parce que le passé et cette mémoire collective, comment je l'ai intégrée, comment elle m'a dit. Et est-ce que cette tradition, est-ce que cette mémoire qui m'a façonnée, est-ce que c'est ce que je suis seulement ? Ou est-ce que c'est seulement d'où je viens ? Ou est-ce que c'est aussi où je vais ? Et donc, il y a cette idée, avec le mot héritage aussi, c'est pas mal, d'une charnière, la tradition est une charnière, entre cette mémoire où j'ai collecté et où je dois avancer, donc où je viens de quelque part et où je vais. Et donc, je suis à cette charnière. Donc, à la fois, je ne peux pas dire, je n'ai rien à voir avec ce qui est avant, mais à la fois, je ne peux pas dire, je n'ai que à voir avec ce qui est avant, et puis je ne regarde même pas ce qui est devant moi, quoi. Donc, il faut bien qu'à un moment donné, je bascule vers le futur. Alors ça me paraît. Ensuite, autre question. Est-ce qu'on peut se demander, enfin c'est une question qu'on peut se poser, si la tradition peut, de façon légitime, faire autorité ? Et sur quoi va reposer cette autorité et quelle est sa prétention ? Est-ce que c'est ce qui se fait parce que ça s'est toujours fait ? Alors aujourd'hui, ça marche plus, hein. Ah. Est-ce que son prestige qui faisait que ça allait de soi comme quelque chose de naturel, c'était un peu construit, c'était un produit de l'histoire, est-ce que ça, dans la modernité, justement, ça tombe ? Voilà, ça tombe. Hein. Et est-ce que parce que ça se fait, il faut continuer à le faire ? Voilà, hein, donc c'est toujours le problème de l'hérite. Voilà. C'est la grosse question d'aujourd'hui, mais de toute ta donnaissance, par exemple. Qui essaie de se réapproprier puis qui essaie de forger ta propre identité personnelle. Et donc, est-ce que l'ancienneté d'une pratique sociale, communautaire, étatique, est-ce que l'ancienneté est un gage de légitimité ? Donc ça, c'est des questions mais fondamentales, quoi. Il faut toujours les avoir à l'esprit. Alors, donc ça c'était les questions de base. Maintenant, si on reprend des exemples. On va donner quelques exemples. La tradition dans un pays. La France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. C'est les pays proches, on les connaît un peu. Voilà. Donc on voit bien qu'au niveau de l'histoire, ça n'a rien à voir. S'il y a eu une révolution française, elle n'a eu lieu qu'en France, en tout cas de cette manière-là. Et que c'est cette révolution qui a peut-être même déteint avec ce qu'en Allemagne on appelle la Aufklärung et qu'on a appelé en France le 18e siècle des Lumières. Mais le mai 68, ça ne s'est passé qu'en France, même si quelque part ça a déteint. Voilà. Donc on voit bien que chaque pays a le printemps arabe, ça s'est passé dans ces pays là-bas. Voilà. D'accord ? Donc, alors, on peut dire qu'il y a des ressemblances, hein, des rébellions, on veut affirmer des choses, etc. Mais c'est pour ça que je suis toujours gênée quand on transporte des terminologies sur une autre situation. Je vous donne un exemple, par exemple, l'apartheid. Le mur de l'apartheid entre blanc et noir. On le transporte sur d'autres pays. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Parce que c'est lié à un contexte, à une culture, à une époque donnée, etc. Et donc, c'est toujours extrêmement dangereux, parce qu'on veut plaquer des situations qui, même si elles se ressemblent peut-être même à 99%, de toute façon, le 1% fait qu'on ne peut pas plaquer complètement. Donc ça, c'est, je pense qu'il faut être assez rigoureux là-dessus. Moi, j'y tiens beaucoup. Quoi. Après, il y a la tradition de la langue, la tradition de l'histoire, la tradition littéraire, la tradition culinaire, etc. etc. On va pas... Bon. Et quand on change de tradition... Quand on change de tradition, ça peut être sanglant. Et nous savons ce que c'est que la Révolution française. Et sanglant, mais d'une violence inouïe. Parce qu'on veut changer de tradition. On n'est plus dans les 13 tiers ordres, etc. Les 3. Maintenant, il faut que le peuple puisse parler. C'est pas rien, hein. C'est pas rien de passer d'un mode à l'autre par un bain de sang. Et par le zigouillage du père, etc. Avec toute la symbolique qu'on connaît. Si on prend la littérature, par exemple, regardons bien comment la littérature forge la mémoire d'un enfant de l'école de la République. Et donc, il va passer en revue depuis les chansons de geste, le Graal, le roman de la Rose, les troubadours, Ronsard, du Bellay, il va passer tous en revue et puis il va apprendre ses textes. Et qu'on le veuille ou non, même si on dit on a tout oublié, c'est quand même là. Quoi. Parce qu'on a appris ses chansons, on a appris ses poèmes, et puis on arrive ensuite jusqu'à l'époque moderne avec toute la littérature extraordinaire, et Victor Hugo, et Diderot, et etc., les fables de La Fontaine, les contes de Perrault, Daudet, enfin bon, je ne fais pas. Mais vous sentez voilà, que cette tradition littéraire, par exemple, elle se continue jusqu'à aujourd'hui, hein, avec la tradition picturale, pareil. Donc on apprend les impressionnistes, etc. Donc quelque chose se continue depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Et donc on voit bien que ces traditions-là, elles sont enseignées, elles sont transmises parce qu'elles traversent l'épreuve du temps. Picasso, il traverse l'épreuve du temps. Un gars qui peignait à côté de Picasso à sa même époque, personne n'en parle plus. Donc il y a quelque chose qui est d'un autre ordre. C'est pas seulement... C'est pour ça que la tradition elle est intéressante parce qu'en fait elle fait un tri. Et qui est-ce qui fait le tri? En fait, c'est le peuple. Qu'est-ce qui a décidé que Picasso est un génie? C'est pas moi personnellement, mais en même temps tout le monde le décide. Parce que si c'était pas un génie, ben, il serait déjà dans une poubelle, quoi. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose de l'ordre collectif. Qu'est-ce qui décide qu'une cathédrale est tellement extraordinaire qu'on ne détruit pas une cathédrale? Pourquoi tout le monde dit c'est magnifique, on va visiter toutes les cathédrales et dès qu'on va dans un pays, on va dans ces cathédrales, dans ces musées, pourquoi? Donc c'est... Hein, ça résiste à l'épreuve du temps. Et donc, il y a quelque chose dans la tradition qui est atemporel. Ça me paraît fondamental. C'est atemporel, c'est-à-dire que je suis un homme du 21e siècle, c'est un homme du 15e siècle, un homme du 8e siècle, j'aime et j'intègre ces données-là qui résistent, quoi. Et pourquoi chez nous en France, Dostoïevski ou Shakespeare nous parlent moins que Victor Hugo, Balzac ou Chateaubriand? C'est parce que c'est pas notre langue, donc on nous a traduit, on a lu, mais c'est pas tout à fait pareil. Voilà, on retrouve encore l'histoire de langue. Et puis les châteaux de la Loire, il n'y en a qu'ici, hein, il n'y en a pas ailleurs. ça a l'air d'être...
Les japonais, les chinois...
Essaye de copier.
Non, mais ils détruisent pierre par pierre aux États-Unis.
Oui, aussi.
Ils les ramènent chez eux.
Remarquez, nous, on fait pareil avec les églises russes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les églises russes qui se sont construites ici en France, qui ont été ramenées. Il y en a même qui viennent de Roumanie en rondin, et puis qui... Voilà. Donc c'est bien, chacun se vole à l'autre, mais ça veut bien dire que ça porte quelque chose où tout le monde se reconnaît. Donc ça, c'est très important. Je pense que la tradition, c'est ça. La vraie tradition, tout le monde se reconnaît. Et donc, c'est pour ça que quand ça grince, il faut bien voir où ça grince et pourquoi. Alors maintenant, si on essaie de voir dans les familles. Alors, on peut dire, par exemple, l'arrière-grand-père, il a fait la guerre de 14. Donc on raconte ça. Il a connu les tranchées. Il a été extrêmement courageux devant le danger. Il a failli être tué à la bataille de Verdun. Et finalement, il a été gravement blessé. on l'a emmené à l'hôpital militaire. Et là, il y avait une jeune infirmière qui l'a merveilleusement soigné. Elle s'est tellement occupée bien de lui que ça s'est terminé par un mariage. Et là, les enfants vont devenir médecin. Et il va soigner les blessés de la guerre de 40. Et ces récits vont se transmettre de père en fils, de petit-fils, etc. Et puis, à la dixième génération, on en parle encore. Et vous sentez bien que c'est vachement important. Ça, c'est pourquoi le petit-fils est devenu médecin. Ah oui, mais... Et puis avec tous les trucs de transgénéalogie qu'on fait maintenant, enfin bon, vous voyez bien que ça nous marque jusque dans nos cellules. Et puis, on raconte aussi comment les mariages se sont faits. Donc, quelles caractéristiques avaient ces mariages? Quelles habitudes on avait dans une famille pour que les mariages se fassent? Et le grand-père et la grand-mère, et les frères et les sœurs de telle famille, ils ont le même comportement dans cette situation, puis le même comportement dans notre situation. C'est quand même bizarre. Et puis, on reconnaît même son oncle et sa tante, parce que c'est pas seulement qu'il vient de la famille, mais il fait les choses un peu comme l'autre tante. Donc, on se transmet quelque chose qui est de l'ordre plus profond que simplement des biens dans une famille. C'est un air de famille qui n'est pas seulement un air de ressemblance. Vous voyez ? On respire un air qui est commun. Et quand on va dans la famille de celui qui a épousé quelqu'un qui est vraiment une étrangère, on se dit oh là là, là on est un peu perdu, on a perdu son père. Donc il faut s'habituer, il faut se désenclaver de sa propre fonctionnement pour pouvoir accueillir la belle-sœur ou la bru ou le gendre. Enfin bon. Et puis on se transmet aussi un patrimoine, on se transmet une exploitation agricole, on se transmet une maison, des maisons, un négoce, une entreprise de chocolaterie de l'arrière-grand-père qui est toujours passé de père en fils. On se transmet des métiers. Mon père était avocat, mon grand-père avocat et puis mon arrière-grand-père avocat. Bizarre. Et médecin, et enseignant, etc. Et puis les parents meurent, et puis le mobilier se répartit, et puis tous les frères et sœurs ont des morceaux d'immobilier, et puis les enfants questionnent, ah, mais ça c'est à qui, hein, mais c'est à grand-père, hein. Et puis après ça passe aux enfants, et puis ah, mais t'as encore le truc de Louis XIV, et puis le petit fauteuil Louis XIV de mamie, machin, de quatrième génération avant, vous voyez. Donc voilà, comment ça fonctionne, hein. Ah, mais t'as le piano de mamie. Ah, mais c'est la mamie de combien de générations avant? D'accord. Ah, mais c'est celle qui jouait du Chopin et que tout le monde était là, ils écoutaient. Et puis quand la famille se disputait, elle se mettait à jouer du Chopin et puis tout le monde se calmait. Ça. Ah oui, je m'en souviens. Ah, oui, je racontais ça à ma fille et puis elle s'en souviendra. Donc, il y a une sorte d'enchantement de cette transmission d'histoire, transmission dans les familles. Et on juge la cohésion d'une famille quand les pièces rapportées arrivent à entrer dans cette histoire, même si ce n'est pas la même. Et donc on est toujours encore dans ce truc de conflit de mémoire. Et un vrai couple, il va tenir si les deux conjoints, quand l'un est chez l'un et chez l'autre, il arrive à... C'est pas son histoire, mais voilà, il s'harmonise avec cette histoire. Et quand l'autre va chez l'un, il s'harmonise avec l'histoire de l'autre. Et là, ça marche. Sinon, ça grince. Vous voyez que tout ça, ça nous touche, mais alors dans nos choses les plus profondes. Sachant que finalement, si je suis le produit du père, du grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-père, ben moi je suis concernée, quoi. Je peux pas dire bon, je suis concernée. Donc comment je me suis réapproprié tout cet héritage? À quoi j'ai dit oui? À quoi j'ai dit non? Pourquoi? Et qu'est-ce que je veux transmettre et pourquoi je ne transmets pas? Est-ce que je le fais de manière consciente? Parce qu'en fait, je le fais de manière inconsciente. Et tous ces éléments de tradition, finalement, nous sont suffisamment naturels. Même si on sait que dès qu'il y a des mariages, voilà, on sent les premiers grincements éventuels au moment des mariages, hein, quand les pièces rapportées arrivent dans la famille. C'est des histoires vraies, voilà. Je ne raconte que des histoires vraies. Mais indépendamment de ça, voilà, si on arrive, voilà, si on a la chance de ne pas être marié, c'est une extraordinaire chance. Ben même s'il y a d'autres inconvénients, bien évidemment que toutes les situations sont belles, hein. C'est pas pour prôner une situation plus que l'autre. Mais bon, voilà. on dit qu'en gros, c'est des habitudes. Hein. On est français, on a acquis la tradition de notre pays, on a acquis la tradition de notre famille. Bon, c'est quelque chose qui nous est naturel. Dès qu'on parle de l'Église, tradition de l'Église, on sort le croc, on ne veut pas y aller, c'est conventionnel, c'est conformiste, c'est carcan. C'est curieux, quoi. Vous trouvez pas que c'est curieux? Dans quel moule ils veulent nous faire rentrer? Ah non, mais moi je passe pas le goulot d'étranglement, hein. ça me plaît pas du tout. C'est un goulot d'étranglement et moi je vais plus pouvoir être moi-même. Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qui a été loupé dans la France?
Non mais ça je suis bien d'accord. Non mais vous sentez, donc, tout ce qui est tradition normale, ça passe comme une de la poste, dès qu'on part sur l'église, les crocs sortent. Donc la question c'est pourquoi? Alors, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui naissent dans des familles voilà, où ils ont été emmenés à l'église depuis tout petit, ils ont vénéré les icônes, bon, bien qu'à l'adolescence ils balancent tout, mais certains, ça passe à peu près. Mais beaucoup, surtout aujourd'hui, ça passe plus du tout. Et donc, est-ce que c'est légitime, cette espèce de révolte intérieure? Je ne veux pas être dans un moule. Mais heureusement qu'on ne veut pas être dans un moule, parce qu'on est charismatique, attention. Et l'Église ne vous demandera jamais d'être comme l'autre, jamais d'être dans un moule. L'Église, c'est pas un moule. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'a rien compris à la tradition de l'Église. Et ça, c'est fondamental. Hein. C'est fondamental. À chaque fois que vous aurez ces mouvements de rébellion, accueillez-les, mais à chaque fois, il faut que votre mental vous dise « La tradition de l'Église, c'est pas un moule. Jamais on va me mettre dans un moule. » Et si je fais un pas vers cette Église, il ne faut pas que j'ai peur, parce que jamais, la vraie Église, hein, je dis bien la vraie, parce qu'il y en a effectivement qui me mettent dans un moule. La vraie Église, elle va être à l'écoute la plus profonde de ce qu'il y a de plus profond en toi, comme personne unique dans l'Église, qui va apporter le joyau unique qui est toi. Et c'est ça dont l'Église a besoin. Et il y a un puzzle extraordinaire, mais il y a un trou au milieu, là, tu n'es pas là. Qu'est-ce qui se passe? La tmouna, j'allais dire. L'image n'est pas complète. Il te manque, là, regarde, il y a un trou, là. Nous, on a besoin de toi. C'est quoi ta grâce qui manque à l'ensemble? C'est ça dont j'ai besoin. C'est pas le moule. C'est fondamental. Donc, on peut sortir les crocs parce que... Voilà, il y a des blessures, hein, on peut les écouter. Mais n'écoutons pas... Enfin, les écouter, les laisser monter. Mais n'écoutons pas, parce qu'il y a quelque chose de démoniaque là-dedans. N'écoutons pas la petite voix qui vous dit oui... essayons de dépasser ce qui nous blesse, quoi. Hein. Et ce qui nous a blessés. Parce qu'il y a dans l'Église, heureusement, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont, surtout, bon, à mon avis, dans les orthodoxes, mais ça, on peut discuter. Parce que je pense que chez les latins, il y a des choses qui bougent aussi, hein, de ce côté-là. Et un accueil profond des personnes. Mais vraiment un accueil profond. Un accueil dans une liberté entière. Et ça, je pense que c'est ça. Il faut goûter cette liberté-là pour pouvoir entrer petit à petit. Donc, alors, on va entrer donc dans le vif du sujet par rapport à la tradition de l'Église. Qu'est-ce que c'est que la tradition de l'Église et pourquoi il y a une tradition dans l'Église? Alors, on pourrait dire tout de suite, après ce que je viens de vous dire depuis une demi-heure, il y a une tradition partout, donc forcément il y a une tradition de l'Église. À la limite, c'est de mettre aussi simple. Et pourquoi c'est pas simple? Alors, d'abord parce que tout ce qui est le domaine de la foi et de la croyance, il y a encore plus de tensions dans le domaine des familles ou des États. Parce que il y a l'idée d'une exclusivité d'une croyance contre l'autre. Toi, tu es musulman, moi, je suis chrétien, mais toi, c'est faux et moi, je suis juste. Et si je ne suis pas juste et que je pense que tu es juste, alors moi, je me deviens musulman. Donc, il y a un problème. Enfin, je veux dire, donc, est-ce que je peux respecter l'autre dans sa tradition en disant, moi, ma tradition, c'est la vraie? Là, c'est plus qu'un conflit de mémoire. Hein. C'est un conflit de croyances. Les croyances, elles sont très, très, très profondes à l'intérieur. Et donc, comment je me place pour être totalement en conformité avec ma croyance, ma foi, totalement en accord avec moi-même, totalement transparent à cette vérité que je sens de l'intérieur, qui n'est pas seulement un truc qu'on m'a inculqué quand j'étais gosse ou je ne sais pas quoi, quelque chose que j'ai personnellement, auquel j'ai personnellement adhéré dans une rencontre personnelle avec le Christ. Voilà. Comment je peux être là? Et j'ai un musulman en face de moi, il est musulman, pas de problème. Je n'ai aucun jugement ni sur lui, ni sur sa croyance. Est-ce que je peux faire ça? Vous voyez tout ce que ça remue intérieurement. Alors, il faut savoir que quand même, la tradition de l'Église est un événement au départ. Il y a un événement dans l'histoire de l'Église au départ. D'ailleurs, comme il y a eu un événement chez nos grands-parents, arrière-grands-parents, avec le mariage de celui qui a fait les tranchées, il y a un événement. Et l'événement fondamental, hein, c'est ce que nous dit les Actes des Apôtres, de Pierre, c'est la mort et la résurrection du Christ. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. C'est l'événement clé. Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès, aussi bien n'était-il pas possible qu'il fût retenu dans son pouvoir. S'il n'y avait pas eu la mort et la résurrection du Christ, il n'y aurait pas d'Église. C'est simple. Donc l'événement fondateur, et nous le savons tous, c'est pas pour rien qu'on sait le dimanche, lors de la résurrection, nous savons tous, l'événement fondateur, c'est le don de la vie du Christ. C'est bon, l'incarnation en amont, bien évidemment, mais le don de la vie du Christ sur la croix, seconde personne de la Trinité. Donc, sans résurrection, il n'y aurait ni foi, ni évangile, ni église, ni sacrement, ni rien du tout. Voilà. Donc si on part de l'événement fondateur, déjà, on a le fondement. Hein, il y a quelqu'un qui parlait de fondement tout à l'heure. Le fondement est là. Après cet événement fondateur, a été expérimenté par ceux qui ont vu qu'il avait d'abord connu le Christ avant et qui l'ont vu ressusciter. Donc il y a une expérience, alors on ne va pas refaire toute l'histoire, mais Thomas, etc., qui cite d'Emmaüs, et puis après il y a une expérience personnelle de chacun des 12, et puis des 72 au plus des autres, de cet événement fondateur. Mais tout ça, c'est que de l'oral. On ne va pas écrire la tradition. On est dans une expérience de relation et de certitude, Dieu avec certitude l'a ressuscité. Et l'un des récits les plus poignants, c'est le récit de Luc, où il y a les disciples d'Emmaüs qui font l'expérience que tout est fini. Ah oui, mais nous on croyait qu'eux, et puis pleurnissent quoi. Hein. Ah vraiment, on avait une espérance, et puis c'est tout est à l'eau quoi. Et puis il y a un homme qui les rejoint sur la route, ils ne savent pas d'où ils viennent, et puis, paf, le partage du pain. Et ils réalisent qu'ils avaient le cœur tout brûlant quand ils leur parlaient des Écritures. En disant, voilà, celui qu'on annonce depuis le départ, c'est lui. Et c'est une telle force d'expérience, alors qu'au départ, ils n'ont rien vu du tout, que sur le champ, ils quittent, et ils vont dire... Ils retournent à Jérusalem voir les autres et ils disent « Le Seigneur est vraiment ressuscité. » Alors, je ne sais pas si vous avez lu bien dans les Actes, mais c'est extraordinaire. Ils arrivent, donc ils partent d'Emmaüs, ils rejoignent. Et ils frappent avant même qu'eux, ils aient le temps de dire. En face, ils entendent « Le Seigneur est ressuscité, vraiment, il est apparu aussi. » Donc, des expériences de chacun qui se croisent, et on se bouscule pour se la partager, quoi. Et c'est pour ça que, au début des Actes, Pierre dit « Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins. » Tous témoins. Donc il y a un témoignage à la fois commun et à la fois personnel. Chacun partage ce qu'il a vécu de ce témoignage. Donc, expérience vivante. Hein. Et c'est seulement après cette expérience, parce qu'elle a donné la vie intérieure à chacun, qu'il y a une vie qui est renée quoi, de ce désespoir, de ce dégoût de vie, etc., de cette pleurnicherie, entre guillemets, excusez-moi les termes, c'est peut-être pas très... bon, mais c'est juste pour donner un goût contemporain à ce récit extraordinaire. Il y a une vie qui est redonnée de l'intérieur. Et donc, à partir de cette vie, il y a une tradition qui va s'instaurer au fur et à mesure du temps qui passe, et c'est comme ça que naît progressivement la tradition des vies. Et donc c'est une vie au départ, une vie avec le ressuscité. Et donc, quand on va parler donc, de tradition dans le christianisme, dans l'Église, c'est parler de la façon dont cet événement central et fondateur a surgi, s'est développé au cours des siècles et s'est transmis. Et donc, quand on parle de tradition, on parle de transmission, toujours. Travere, en latin. Donc, comment un fait, un événement, une parole se transmet de telle façon que ça devienne tradition? Que s'est-il passé dans le mouvement du christianisme, de la rencontre du Christ, pour qu'un jour, ça soit devenu une tradition? Ce n'était pas une tradition en l'an 40. C'est un espèce de groupe encore un peu informé. Donc, il y a l'événement, mais l'événement ne suffit pas. L'événement ne suffit pas. La preuve en est, c'est qu'il y en a des milliards qui n'ont jamais cru à cet événement et qui ne sont jamais entrés là. Donc, l'événement ne suffit pas. Il faut la transmission de l'événement, qui n'est pas seulement une transmission télégraphique, une répétition fidèle, mot à mot, Dieu l'a ressuscité des morts un peu comme un disque rayé, un perroquet. Mais une transmission qui a traversé la vie et le cœur de celui qui la porte. C'est-à-dire que l'événement n'est plus un événement extérieur, il est incarné dans la personne qui la porte, qui en parle, et comme s'il l'avait vécu lui-même. Par exemple, en Saint Jean, Marie-Madeleine croit qu'on a enlevé Jésus, puisqu'elle voit le tombeau vide. Elle va voir les disciples, Pierre et Jean partent, ils voient, mais ils ne voient rien, ils voient des linges. Même Jean, on dit, il entre, il vit et il crut. Il y a certains pères de l'Église qui disent qu'est-ce qu'ils voient et qu'est-ce qu'ils croient. Ils voient que le tombeau est vide et ils croient ce qu'a dit Marie-Madeleine, c'est que les linges sont là et qu'il n'y a personne. Donc il y a plusieurs interprétations. Il y en a qui disent qu'il croit déjà à l'avance, parce qu'il a ce qui est possible aussi. Mais c'est pour dire que l'interprétation de cette phrase est diversement vue par les pères. Ce qui vous dit bien qu'il n'y a pas de mou dans l'Église, même chez les pères de l'Église. Ça, c'est très important. Il y en a qui pensent complètement à l'opposé. Donc ça, c'est très, très, très important. Il faut s'approprier ça. Ça veut dire qu'on a vraiment une pleine liberté. Ça, c'est... Moi, quand j'ai découvert ça, là, je fais doucement. Parce qu'avant, En effet, ils ne savaient pas encore, d'après l'Écriture, qu'ils devaient ressusciter d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Voilà. Donc l'événement ne suffit pas. Et Marie-Madeleine revient près du tombeau, elle persiste, elle pleure. Donc, toujours le plan... Donc il y a de la pleurnicherie avant, quand même. Il y en a pas mal. C'est de l'émotion. Ah ben non, elle pleure devant le tombeau vide, elle dit on a enlevé celui que mon cœur aime. Elle pleure devant le tombeau. Quoi. Je veux dire, c'est vide, il n'y a plus mon Jésus, moi je veux le tenir à ma mesure, c'est moi qui le mis linge, et je suis apporté les aromates, tout ça, et puis il n'y a plus rien. Attends, mais c'est une catastrophe, quoi. Déjà, il est mort, mais alors en plus, il n'y a même plus son corps. Je ne peux plus. Je peux plus faire mon deuil.
Ce que je pense, je vais dire, madame, oui. C'est que le mot pleurnicherie, à mon avis, est un peu.
Péjoratif. Oui. Absolument. Oui, oui. Absolument. Mais je le fais en langage un peu moderne, comme si. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord. Ça, c'est un drame. Voilà. C'est des pleurs, c'est vraiment un drame. Bon, voilà. Mais. Voilà. Ça aurait pu s'arrêter là. Alors, on s'arrête là et puis voilà, on pleure, on essaie de faire le deuil, comme on a tous pleuré, la mort de nos parents, la mort de nos proches. On fait un deuil et puis on avance comme on peut avec le deuil. Et puis Jésus arrive et puis elle bénéficie d'une apparition personnelle. Et là, boum, ça s'ouvre. C'est pas seulement le fait qu'elle a la chance d'avoir cette apparition personnelle, c'est le fait que dans cette rencontre courte, apparemment, parce qu'il y a quand même échange de quelques... Elle se reconnaît par son nom, elle est appelée par son nom, il y a quelque chose d'extrêmement personnel dans la relation, et bien, la vie revient. Elle n'est plus dans le drame, elle n'est plus dans les pleurs, elle n'est plus dans le deuil, la vie revient. Donc on n'est plus dans la mort, on est dans la vie. Donc elle aussi, elle fait l'expérience du passage de la mort à la vie. Et c'est parce qu'elle fait ce passage qu'elle peut être appelée Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. L'apôtre des apôtres. 22 juillet, on le fête chacun. Autre apparition 8 jours plus tard avec les disciples, où Thomas n'avait pas été là. Donc, c'est là où on voit bien que Jésus, pendant 40 jours, il multiplie, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les apparitions, mais j'ai envie de dire, il multiplie les relations personnelles pour que chacun fasse expérience. Comment je passe du deuil à la vie? Comment je passe de la mort à la vie? Comment je passe de ce truc qui m'a vidé, où j'avais une espérance pendant 3 ans, où j'avais une certaine espérance, il y avait quelque chose qui se passait. Et puis, je suis vidé, je suis mort, quoi. Et puis, la vie qui d'un coup revient parce que l'expérience que le Christ vit dans sa mort et résurrection, moi j'en fais l'expérience à ma manière, dans ce deuil qui redevient vie parce qu'en fait cet homme il est ressuscité. Nous l'avons vu le Seigneur, et Thomas dit, ben moi si je ne vois pas, s'il ne met pas le doigt, etc. Donc Thomas il doit faire aussi son expérience personnelle à sa manière à lui. Pas de carcan, pas de conformisme, c'est la manière de Thomas, elle est unique.
À son échelle humaine,
là où il en est. Et Jésus se laisse faire. C'est majestueux, quoi. Hein. C'est majestueux. On pourrait faire des commentaires des heures. Hein, c'est... Enfin, les pères d'Église ont ça fait beaucoup mieux que moi, donc je vais leur laisser la parole. Alors, une fois que cette expérience commence à gagner, et que chacun retrouve une vie, une sève de vie qui monte de l'intérieur, à partir d'un deuil, d'un tombeau vide, de linge, quelque chose qui n'a aucun intérêt. D'ailleurs, personne ne trouvera dans le tombeau lui-même la vie. Si on va vénérer le tombeau du Christ, c'est parce qu'on a déjà fait l'expérience de cette vie à travers la mort. Sinon, c'est un tombeau qui est un tombeau. Vous voyez bien, c'est pas la matérialité. C'est mon expérience forte. Quand je vais à Jérusalem et que je vais vénérer le tombeau du Christ, l'expérience c'est que moi j'ai reçu la vie du Christ et que quand je vais là dans le tombeau c'est la vie que je viens chercher, c'est pas la mort. Regardez le vendredi saint, hein. Le vendredi saint on l'a à peine enterré qu'on célèbre déjà sa résurrection, donc ça veut bien dire que c'est la vie qu'on célèbre, c'est la vie, même s'il va passer encore tout samedi saint au tombeau et dans les enfers. Et finalement peut-être que notre fondement de foi chrétienne c'est ça, c'est est-ce que j'ai suffisamment accueilli, et puis il faut le faire chaque jour, hein, parce qu'on se vide, facilement, quoi, hein, les énergies de vie, pas facile dans le monde dans lequel on est. Quoi. Donc, est-ce qu'on reçoit suffisamment cette énergie divine, qui est l'énergie vraiment du Christ ressuscité, pour pouvoir en témoigner, même dans un tombeau? Moi, demain, je vais dans une tombe, je témoigne de la résurrection. Nous, quand on enterre une sœur chez nous, on chante le Tropère Pascal, mais je vous dis pas, ça éclate. Quoi. Je pense que c'est aussi là.
Chez nous aussi, monsieur.
Et c'est joyeux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de nous qui est en deuil, bien sûr. Mais c'est la vie qui prime, c'est-à-dire que le deuil est là parce qu'on est dans une humanité, on est dans une psychologie, on est dans nos blessures humaines, dans notre pathos, etc. Mais c'est la vie divine qui prime. C'est cette vie-là qu'on exprime communautairement et qu'on sait que... Et c'est pas pour rien qu'on ne dit pas que cette sœur ou cette personne qui est morte, on ne dit pas qu'elle est, on dit qu'elle naît du ciel. C'est une naissance. Et donc, on accompagne une vie qui naît. Mais c'est quand même. Imaginez la vie chrétienne, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus beau, quoi. Enfin, moi, je vois rien de plus beau, quoi. Franchement, moi, c'est cette vie-là qui m'intéresse. Quoi. C'est pas. Je veux pas vous assommer trop, mais. Alors, si maintenant on passe un pas, donc une fois que ça gagne. Il faut essayer de voir comment ça se construit, cette tradition, quand même. Il va falloir, donc, au fur et à mesure que chacun fait l'expérience et que c'est tellement vivant dans une personne qu'elle peut le transmettre à d'autres, et que d'autres qui n'ont pas eu l'expérience directe avec le Christ d'avant sa mort et d'après sa résurrection puissent adhérer à la vie, à cette vie-là du ressuscité, parce qu'ils la voient vivre dans quelqu'un qui lui transmet. Vous me suivez ? Et à ce moment-là, ça commence à gagner. Et donc les communautés, elles grossissent. Et c'est à partir du moment où ça grossit, que ça commence à prendre un peu de consistance, qu'il va falloir organiser ces communautés. Il va falloir, ça ne peut pas aller dans tous les sens. Donc comment, petit à petit, on est obligé, entre guillemets, de canaliser un mouvement de vie qui, voilà, c'est formidable, hein, mais qui est exponentiel. Et puis, bon. Donc on est obligé de donner quelques balises, quelques repères pour qu'il y ait une cohésion, une harmonie, une cohérence de toutes ces personnes qui ont fait la même expérience, qu'elles soient directes avec le ressuscité ou à travers un de ces témoins qu'on appellera les 12, les apôtres. Et donc, ce qui se passe dans une famille, comme je vous ai raconté tout à l'heure, va se passer de la même façon, à une plus grande échelle, dans une tradition religieuse. Et dans la tradition chrétienne comme la tradition juive, on a, alors je fais un générique très vague, très large, parce que bon, les termes ne sont pas forcément tous les mêmes, mais on a une transmission de maître à disciple, une transmission d'ancien à plus jeune, une transmission de père spirituel à enfant spirituel. Donc des apôtres qui vont être des anciens, presbytéroi, des anciens, qui vont transmettre à ceux qui n'ont pas. Bon, et donc cette transmission, elle va être accueillie, enfin cette vie, cette expérience, elle va être transmise, elle va être accueillie par des plus jeunes. Que ce soit en âge ou pas en âge, vous savez que dans l'église, un prêtre qui peut avoir 70 ans, qui a été ordonné hier, il sera plus jeune que le prêtre de 30 ans qui est ordonné depuis 25 ans. Enfin bon, je m'entends. Je
risque que je peux peut-être. Il y a ça tous les images.
Ah oui, c'est vrai qu'il est plus âgé en âge que toi au niveau sacerdoce. Oui. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est l'ancienneté de l'expérience en fait. Hein. Donc, il y a des communautés qui vont se former. En Galilée, en Syrie, en Asie mineure, à Jérusalem, Antioche, Éphèse, Alexandrie, Rome. Hein, voilà, ça commence à prendre de l'ampleur. Mais, n'oublions pas une chose, c'est que l'organisation de l'Église, ce qu'on va appeler aujourd'hui la structure ecclésiale, le clergé, les évêques, les patriarches, tout ça, n'est rien d'autre qu'une structure, c'est-à-dire qu'un cadre, pour s'assurer de la transmission exacte de la tradition. C'est-à-dire de ce que Paul appellera le dépôt de la foi. C'est simplement un cadre, pour dire, bon, où est la vraie tradition de la fausse? Et vous savez que dans les débuts de l'Église, il y a eu beaucoup de fausses traditions, beaucoup de sectes. On en parlera tout à l'heure, parce que c'est très important, parce que c'est grâce à ce qu'on appelle ces fausses gnoses que la tradition de l'Église s'est renforcée rapidement dans les premiers siècles. On en parlera de toute façon. Et donc, la meilleure définition de la tradition que l'on va trouver, c'est dans la deuxième épître de saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 2. Donc, 2 Tim 2, 2. Facile de souvenir. De Tim de deux. Ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner à d'autres. Donc on voit bien, il y a la transmission, la réception et la retransmission. Je répète, ce que tu as appris de moi. Timothée est le disciple de Paul. Donc vous voyez, on est vraiment dans une relation, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Hein. Ce que tu as appris de moi, et comme par hasard, c'est la meilleure définition de la tradition, c'est comme par hasard chez Timothée qui est le disciple vivant, si vous voulez. On n'est pas dans des concepts, on est dans une tradition et dans une relation. Paul lui-même n'ayant jamais vu le Christ, entre guillemets, de son livre, hein, de sa vie terrestre avant sa mort. Hein. Donc Paul lui-même étant presque, entre guillemets, de la deuxième génération, bien qu'il ait été assimilé aux 12. Hein. Ce que tu as appris de moi, en présence de nombreux témoins. Donc ça veut bien dire qu'il y a déjà un aspect ecclésial, c'est-à-dire un aspect communautaire. Tu apprends quelque chose de moi, mais il y en a d'autres qui ont entendu. Donc là, on pourra en reparler quand on... Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire aujourd'hui, mais on aura l'occasion de s'en voir sur cette question, c'est une question énorme. Hein. C'est la problématique de l'oralité. Quand je transmets en oralité, il y a toujours d'autres. Il y a toujours des disciples. Un transmetteur et des disciples, et des appreneurs. Hein, si on devait prendre le langage voilà, de la mémorisation. Donc, ce que tu as appris de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles. Donc, ce qu'il faut bien retenir là, c'est que, premièrement, Timothée reçoit, c'est lui qui reçoit, parce que Paul, c'est à lui qui parle. Il reçoit à l'intérieur d'une communauté. Comme si Timothée lui-même est dépositaire donc, du dépôt de la foi et de toute cette vie divine dont on a parlé à l'instant, mais d'autres l'ont entendu autour de lui. Ça veut dire que si jamais il transmettait un peu à côté, il aurait quelqu'un qui lui dirait « Ah, ben, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas ça qu'il a dit. » Donc il y a toujours une vérification communautaire, toujours, 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 toujours. Mais vous savez très bien que les évêques ne sont pas tout puissants. Si les évêques sont hors dépôt de la foi sur tel et tel point, si le peuple se lève en disant « Non, ça ne va pas », l'évêque il est obligé de se soumettre. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est la force de l'orthodoxie. C'est très important. C'est l'Église entière qui est. Chaque baptisé est responsable du dépôt de la foi. C'est très, très, très important. Je me souviens d'un congrès, c'était à Amiens. Monseigneur Séraphin avait fait une homélie. Oh, tout le monde avait hurlé à la fin de l'homélie. Certains s'étaient dit bon, on va aller en groupe et on va les voir. Vous voyez, l'audace. Elle est bonne parce qu'elle était juste. Mais ça avait remué, hein. Pas du tout d'accord. C'est le congrès de la fraternité. Je ne sais pas pour moi qui était. Bon. Donc, confie-le à des hommes fidèles. Bon, ça, c'est très important. Fidèles, ben, il y a le mot foi dedans. Donc, des hommes qui sauront vraiment. Qui seront eux-mêmes capables de l'enseigner à d'autres. Ben, évidemment, la fidélité fait qu'on reçoit cette vie, on la garde, on la fait fructifier parce qu'une vie, ça se perd. Ça peut se perdre. Donc, il faut bien toujours savoir à quelle source on s'abreuve et toujours retourner à la même pour réalimenter quelque chose qui peut. Et une fois qu'on est dans cette fidélité-là, bah, après on peut transmettre. Et donc, ce que saint Paul lui-même a reçu dans ses visions, hein, qu'il a reçu du Christ ressuscité, ce que le Christ a enseigné aux apôtres, ce que les apôtres à leur tour ont enseigné à leurs disciples en les envoyant. Tout ce qui a été confié à d'autres hommes fidèles, qui vont être capables eux-mêmes d'enseigner à d'autres, voilà comment petit à petit la tradition va se mettre en place. Et donc, l'enseignement du Christ, l'enseignement des apôtres, la parole de Dieu confiée à l'Église, c'est l'Église qui va avoir la charge de la transmettre de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. C'est cette même parole vécue dans l'expérience par des générations successives, au sein d'un même corps qu'on appelle l'Église. Et c'est ce processus d'expérience, de dépôt de la foi, de vie divine, de fondement du Christ mort ressuscité qui se transmet, qu'on appellera la tradition de l'Église. Donc, la tradition, s'il fallait le résumer en un mot, c'est la transmission de l'enseignement apostolique. C'est très simple. Et donc, elle ne doit pas être confondue ni avec les traditions, avec un petit T, ni avec les coutumes, ni avec les rites d'une petite communauté locale, etc. Même si, souvent, ces coutumes sont bonnes et qu'elles peuvent aider. Mais il ne faut pas confondre. Ça, on y reviendra aussi plus tard, parce que, bon, c'est des sujets Si j'ai dépassé une heure, il faut m'arrêter. Si je n'ai pas dépassé une heure, je peux encore... Ça fait là. Bon. Allez, on s'arrête. Enfin, on s'arrête. Merci. C'était juste l'apéritif. Activo-passive dans le sens de. Voilà, on ne veut pas rentrer dans le système, quoi. Justement, parce que là on est dans un truc qui nous coince, qui bloque notre liberté et qui en plus contre l'homme, contre la nature. Et pour nous, c'est inadmissible. Parce que nous, ce n'est pas l'économie qui est au centre, c'est l'homme. Et donc, il faut tout renverser. Mais moi, je suis convaincue que les chrétiens et que les hommes de bonne volonté, parce qu'il y en a beaucoup d'autres aussi qui ne sont pas forcément chrétiens, hein, qui sont dans cette dynamique-là, heureusement. Et je suis convaincue que même si on est une minorité, à un moment donné, ouf, ça peut renverser. Mais il faut être très fort ensemble. C'est là où il faut être soudé, il faut maintenir
la cohésion. Mais tout à l'heure, vous parlez de transmission dans la littérature. Oui. Je ne suis pas d'accord, mais non, on n'en a plus de transmission. Parce que quand tu regardes les programmes des écoles, tu n'as plus, tu ne te parles plus.
Ah oui.
Du mêlé, moi, c'est moi qui les suis régulièrement et qui vois les programmes maintenant. Tu as la littérature américaine, tu as la littérature allemande, tu as la littérature, etc. Qui est donnée. Et les enfants lisent des traductions, bien entendu, puisqu'ils ne veulent pas lire dans le texte, mais nos textes à nous, ils ne les connaissent pas.
Ah bon.
Les auteurs ne les connaissent pas.
Ils ne les connaissent pas.
C'est dramatique. Et je suis, moi, ahurie, parce que les jeunes qui sortent là, qui ont de bas français, entre guillemets,
ils savent tous les deux français
de quoi on parle. Ils ne peuvent raccrocher aucune œuvre à rien. Par contre, ils connaissent beaucoup de choses parce qu'en art, on leur a parlé d'un artiste, on leur a parlé d'un artiste de cinéma. Ou de, voilà, mais il y a une personne qu'ils connaissent. Et on va travailler sur cet artiste ou cet écrivain pendant un trimestre. Et le reste, il n'y a rien.
Donc tu vois qu'il y a un problème vraiment de rupture de tradition dans notre société.
Pour moi, c'est volontaire. Hein. Pour moi, c'est pas anodin. On ne touche pas à des choses comme ça sans y avoir réfléchi.
Mais de toute façon, il n'y a pas que cette pensée. Hein. En biologie, c'est très idéologique maintenant, le programme. Je l'ai regardé, ça fait peur aussi. Hein.
Donc vous sentez à quel point il y a besoin que nous, on fasse déjà le point avec le problème de la tradition, nous déjà personnellement, ensuite qu'on le fasse de manière communautaire, et collégiale, sociale, et ensuite qu'on essaie de renverser la vapeur. Alors ça va prendre quelques générations, il va y avoir des générations qui vont écoper, mais n'empêche qu'à un moment donné, ça va se faire. Quoi. Parce que c'est trop... Il y a une violence dans ces idéologies qui nous cassent. Qui nous casse finalement une lignée, qui nous casse.
Qui nous déracine.
Voilà. Il ne faut plus qu'on soit. Qu'on se laisse, entre guillemets, abuser dans tous les sens du terme. Hein, vraiment.
Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde.
Voilà. Ouais. Voilà. Il ne faut pas être un mouton. Et là, du coup, ça nous forge quelque chose et ça peut aussi nous faire comprendre de qu'est-ce qu'on vit dans l'Église. On n'est pas des moutons, même dans l'Église. Et si dans l'Église, on n'est pas d'accord, on le dit. Voilà. Donc ça, c'est fondamental. Quoi. C'est...
Il faut réussir à réinstaurer la vérité dans la réalité.
Voilà. Ouais. Mais c'est pour ça que, bon, là, on va avancer, mais vous allez voir qu'il y a une notion de vérité. Et que, bon, moi, c'est mon point de vue, on peut ne pas le partager, hein, mais pour moi, la vérité, c'est le Christ. Et que le critère de vérité, c'est le Christ. Et donc le christianisme. Même pour quelqu'un qui n'aurait pas le Christ ou n'aurait pas, s'il est homme jusqu'au bout, il va avoir un critère de vérité qui va être l'homme. Or, le Christ, il est homme. Donc, quelque part, quand même, on se rejoint. Parce que finalement, toute la problématique actuelle, c'est ça, c'est que l'homme n'est plus au centre. Il faut remettre l'homme au centre, et l'homme dans toutes ses composantes. Y compris la partie spirituelle de l'homme qu'on a gommée, mais alors, facilement, quoi. Hein. Ça, on en parlera aussi éventuellement une autre fois. C'est fondamental, quoi. Bon, alors continuons. C'est bien, je suis contente de. Je vois que ça a remué des choses. Et je pense que c'est une bonne manière de s'approprier aussi.
Hein, de, oui, tout à fait. Voilà, oui.
Hein, je crois que c'est très important. Alors, je m'appuie sur le Père Cyril Argentine, qui est bien connu dans cette région. Hein. Je pense à saint homme. Je ne sais pas si un jour il sera canonisé, mais bon, tous ceux qui l'ont connu hein, le savent, c'est vraiment un fantôme. Lui, il parle non seulement de la transmission du message, la transmission d'un témoignage, la transmission d'une expérience, d'une vie qu'on a reçue, qu'on s'est appropriée et qu'on redonne, mais lui, il parle carrément de la transmission de la personne du Christ. Voilà, donc là, vous voyez, on va encore, j'ai envie de dire, on fait encore un pas supplémentaire. Et lui dit, il pose la question, qu'est-ce qui est transmis en réalité? Est-ce que c'est seulement la foi? Mais pourtant, la foi des apôtres n'est pas une foi statique, c'est pas une foi immobile, ce n'est pas une foi en une doctrine qui serait toute faite, donc on n'est pas dans l'idéologie, justement. Ce n'est pas un enseignement bloqué, ce n'est pas une sorte de philosophie qu'il n'y aurait à transmettre comme un paquet. Vous voyez, voilà, quelque chose voilà, de matériel quand on transmet matériellement, bon, c'est un truc tout fait, quoi. La foi des apôtres est la foi en quelqu'un. Et cette transmission n'est pas simplement celle de l'enseignement du Christ, mais de la personne même du Christ. Voilà. Donc là, on entre dans quelque chose d'encore plus puissant. Parce que si cette transmission, et on le verra tout à l'heure, à un moment donné va se cristalliser aussi dans un livre qu'on appelle la Bible et le Nouveau Testament, donc une parole, n'oublions pas que cette parole c'est d'abord le verbe et qu'avant d'être de se rétracter parce que finalement ça diminue d'avoir un texte écrit sur une page ou c'est un parchemin, avant de se rétracter dans cette parole, le verbe c'est le verbe, c'est le verbe vivant, c'est la parole même du Père. Et donc cette parole c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Et que la parole, c'est pas des mots, c'est le verbe de Dieu en personne. Comme le dit saint Jean, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'un fils unique tient de son père. Donc, si la parole c'est quelqu'un, ce Christ incarné, dont la pensée va s'exprimer dans les évangiles, mais en même temps que sa pensée s'exprime en parole, tout en l'exprimant, il la vit corporellement et il la vit parmi les autres, parmi ceux qui l'entourent. Et donc la tradition va être à la fois la transmission des paroles du Christ et aussi et surtout la transmission de sa personne. Donc là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc si le Christ est présent à la fois au milieu de nous et en nous, on ne pourra jamais isoler la transmission de la parole, de l'action et de la vie du Saint-Esprit dans l'Église. Donc, et de même qu'on va dire que le Christ, il est à la fois le message et le messager, hein, il y a une unité parfaite, et c'est bien le problème chez nous. C'est qu'il y a une distorsion entre message et messager. Parce qu'on peut donner un message et on n'arrive pas à être 100% vivant de ce message. Et que c'est toute la problématique de notre vie de chrétien, qui est une vie de sanctification, de divinisation, où de plus en plus on va essayer d'être en parfaite adéquation. C'est pour ça que c'est difficile de parler. En parfaite adéquation entre ce que je transmets et ce que je suis, ce que je vis. Et puis les gens, ils vous font pas de cadeau, ils vous le disent. Attends, t'as dit ça, mais t'as vu comment tu te comportes. Et heureusement! Heureusement qu'ils nous disent ça, parce que du coup, ça nous met un peu la pique. Et puis, on se dit, ben oui, là j'ai encore un chemin à faire, il faut que je me reprenne en main sur cette question, etc. Donc c'est bon, pour moi, c'est un cadeau, hein, quand j'entends ça. Et mais en même temps, ça fait mal, parce qu'on voudrait y arriver. On voudrait pouvoir être à la fois porteur d'un message et d'être un messager qui colle avec le message. Bon, ça, c'est fondamental, ça, à mon avis. Bon. Donc, et aussi, si je transmets la personne du Christ, est-ce que, premièrement, je suis vraiment dans une relation personnelle avec lui? Est-ce que j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, je l'ai intégré intérieurement? Est-ce que le Christ, il vit en moi, comme dit saint Paul? C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et est-ce que, par exemple, dans n'importe quelle situation que je suis, dans mon métier, dans ma famille, est-ce que c'est lui que je mets devant ou c'est mon petit ego que je mets devant? Non mais c'est sérieux ces histoires-là. Parce que son ego, il est facile hein, à se mettre devant. C'est même la pente naturelle la plus...
Il est bien rodé.
Comment on vérifie? Est-ce que vous avez une idée de comment vérifier que c'est pas mon ego qui est devant? Parce qu'il y a un truc qui vous vient comme ça, tout de suite.
La paix.
Oui. Et quelque chose de plus précis.
Quand on voit qu'on n'est pas égoïste.
Quand on est dans une situation, qu'on pose un acte et que l'ego n'est. Qu'on peut être sûr que ce n'était pas mon ego qui était devant.
Quand on est sûr, parce qu'on peut être sûr de soi-même, qu'on ne laisse pas la place à l'égoïsme.
Oui, mais là, cette prophétie, qu'est-ce que c'est? Moi, je voudrais que vous me donniez.
C'est la tranquillité,
c'est
d'être
tranquille, oui. D'être tranquille, voilà, mais c'est pas mal. Mais... Bon, alors, il faut peut-être donner des exemples plus précis, alors.
Une jubilation intérieure.
Une jubilation intérieure, oui. La vie de l'esprit, oui.
L'intuition que Dieu existe, qu'il est là, dans l'action que je fais.
Oui.
La question que je peux me poser de ce qu'aurait fait le Christ dans cette situation.
Oui.
Oui, mais là, on doit faire
marcher
aussi.
Oui, c'est une unité.
Alors, moi, je vais vous dire mon critère. Ouais. Parce qu'en plus, je suis tout le temps en situation de parole. Donc... Je suis en situation de parole, là, c'est la situation d'aujourd'hui. Je donne ce que j'ai aux tripes. C'est reçu, c'est bien. C'est pas reçu, c'est bien.
Voilà,
c'est ça. Ah, tranquille. C'est ça, la clé. C'est ça, la clé. C'est-à-dire que je suis pas là pour qu'on me, on me, oui, on me brosse et que j'ai un espèce de retour. Hein.
Ce n'est pas l'insensibilité, c'est le détachement.
Voilà.
Ouais. D'accord.
Et parce que je suis dans la conviction que c'est ça que je devais dire, quoi qu'il arrive.
Donc dans la confiance de ce que tu fais.
Dans la confiance, mais dans la certitude intérieure que, voilà, que je n'attends pas de retour. Voilà.
C'est l'humilité.
Il y a une certaine... Exactement. C'est un travail, hein, je dirais pas...
C'est pas le jugement de ce qui... De c'est bien ou c'est pas bien.
Voilà, c'est pas le jugement des autres. Voilà, c'est pas ça. Et voilà, donc, c'est un critère, il y en a plein d'autres. Hein,
ouais.
J'avais envie de revenir sur ce que tu sur ce que tu disais justement, parce que ça m'a fait tilt sur ce qu'on va transmettre, voilà, c'est la personne du Christ. Et tu as dit c'est pas une philosophie. Et je sais que oui, tout à fait.
Je ne fais que le plagier.
Tout à fait. Mais moi, je sais que j'ai été presque en souffrance et avec là une réaction que j'avais qui m'a mené presque à dire aux gens qui me parlaient, mais arrêtons tout. C'était de parler avec les prêtres catholiques qui, à un moment donné, te disent que d'une certaine façon, la croyance en Dieu, en Christ, ben c'est une tradition, une ecclésialité, etc. Et finalement, c'est une philosophie de vie, quoi, croire en Dieu, point barre. Mais aller jusqu'à dire que, oui, le Christ a existé, mais enfin, bon, tout ce qu'on a brodé autour, Et moi, je sais que ça ne peut pas être ma vision des choses. Ça m'a touché. Oui, c'est surprenant, mais ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Alors, ça fait partie de certains courants un peu avant-gardistes.
Je pense que c'est vrai, mais j'espère perdre pas tous les prêtres. Je vois très bien de quel courant vous voulez parler.
Voilà, c'est un peu terrorisant, moi, je trouve.
Qui s'inscrit dans, pas tout à fait, mais un petit peu dans la lignée de Renan, du modernisme, un petit peu du modernisme, parce que s'ils étaient modernistes au grand jour, ils auraient déjà quitté l'Église catholique, qui veut distinguer entre le Christ de l'histoire historique, dont on a quelques témoignages par à la fois la Bible et aussi Flavius Joseph, voilà.
Et le Christ de la foi.
Et d'autre part,
un Christ qu'on aurait fabriqué.
On aurait fabriqué en des premiers conciles.
Oui.
Les premiers conciles. Nicée-Constantinople.
Ça existe au Christ.
Genre, pour être très clair, aucune critique par rapport à nos frères catholiques en général. Mais quand je suis tombé là-dessus, et ça m'est arrivé à deux reprises dans des moments d'échange un peu intimes et en confiance, Je me suis tu pour ne pas rentrer dans l'agressivité vis-à-vis de l'autre qui me touchait, mais il me touchait dans quelque chose de profond. C'est pas mon ego là qui, mais c'est quelque chose. Si on me l'enlève, merde, il m'en se peut rien quoi quelque part. Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était probablement des choses qu'ils transmettaient ou qu'ils faisaient transpirer à leurs fidèles, à leurs foyers, etc. Je me dis bonsoir là, on commence à creuser un décalage qui va nous poser problème à un moment donné. Oui. Voilà.
Mais ça, tu peux aussi le rencontrer dans des milieux protestants.
Oui, puis dans des milieux, car on n'est pas bon non plus dans l'orthodoxie. Il y a le qui existe et qui est une chose épouvantable. Je veux dire, non, c'est pas... Bien sûr,
Et même au niveau de ce qu'il y a dedans. Pour donner un exemple sans dire de nom, c'était avant Noël, donc on parlait d'Annonciation, et donc on parlait de Joseph, tout ça, et alors je lui dis, mais attends, il n'y a pas écrit quelque part, c'est pas Luc qui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il me dit, oui, mais bon, alors quand on commence à parler de Joseph, et quand je dis, oui, mais bon, pour le Saint-Esprit, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un pasteur, qui a fait des études de théologie, c'est pas un gars qui s'est autoproclamé. Alors quelquefois, ça peut être...
Non, mais c'est très important parce que vous allez voir, on va rebondir là-dessus, on va y revenir de toute façon. Parce que justement, il va falloir qu'on réfléchisse qu'est-ce que c'est le critère du vrai dans l'Église. Ça fait partie de la tradition. Et tous les pères de l'Église se sont posés cette question. Et je ne sais pas si vous avez lu le petit polycopié, mais on va y venir. Et surtout, ça s'est posé très rapidement, tout à fait au début de l'Église, pratiquement au début du IIe siècle. Au début, c'est-à-dire que le canon du Nouveau Testament n'est même pas encore clos. Donc on n'a pas encore écrit tous les évangiles, tous les épîtres, etc. Enfin, Saint Jean, c'est souvent on dit que c'est tard. Bon. La deuxième de Pierre n'est toujours pas dans le canon. Enfin, je veux dire, le canon des évangiles n'est pas encore fait et on se pose déjà la question, mais c'est quoi le vrai? Vous imaginez, c'est fort. Bon, on va y venir de toute façon. Alors, ce que dit le père Cyril pour continuer sur son idée, il dit que, donc, à l'origine, il y a l'enseignement des apôtres. Et lui, il dit, et je pense que c'est vrai, que c'est là où, c'est pour ça que ce christianisme, entre guillemets, il a pris, c'est que l'enseignement des apôtres est un enseignement en parole et en acte. Donc il y a vraiment une adéquation entre messager et message. Et, c'est et en même temps, c'est un enseignement, un évangile qu'on dirait vivant, parce qu'ils ne se sont pas enfermés pour écrire des livres en disant « je vais écrire mes livres, et puis je vais laisser tomber les livres, et puis chacun pour agir ». Vous voyez ? Donc c'est, on n'est pas dans le... ça rejoint ce qu'on disait ce matin par rapport à la tradition orale, on n'est pas dans de l'écrit, en s'enfermant dans son bureau et on écrit. On est dans une transmission en acte vivant. Alors, Père Cyril témoigne de quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il avait été en Roumanie dans une rencontre entre juifs et orthodoxes. J'aimerais bien retrouver la trace de cette... ce que Père Cyril aurait pu écrire là-dessus. Et il constate que chez les juifs, ils vivent l'Ancien Testament exactement comme nous, orthodoxes, on le vit, c'est-à-dire dans le rapport entre l'écrit et la vie. L'écrit et la vie du peuple. Et il dit que Isaïe, les prophètes, là, ils prêchaient, ils enseignaient, ils n'étaient pas là. Bon, il se trouve qu'après, on a des écrits. Ok, mais d'abord, voilà, il y a des contextes concrets, bon, il faut faire face, Amos et Osée, on voit qu'il y a de la corruption, quoi. Hein. Et donc, vous faussez les balances, il n'y a pas question, vous allez regarder dans vos marchés, vous ne faussez plus les balances, et les pauvres, vous ne les presserez pas, etc. Et on redonne de l'éthique dans une certaine corruption.
J'avais pour le moins les pressurer maintenant aussi.
Les pauvres, il faudrait un peu moins les pressurer. Oui. Bon, et donc, que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament, ou que ce soit les hommes d'église depuis les apôtres, ce sont des témoins en acte, des témoins vivants. Il y a de la vie, quoi. Hein. On n'a pas arrêté de parler de vie, mais je pense que la tradition, c'est ça. C'est une vie qui circule, quoi. Hein. Bon. Et des hommes d'action. C'est pas du prêchi-prêcha, si vous voulez. Hein. Et d'ailleurs, le prêchi-prêcha, aujourd'hui, ça passe plus. Hein. Voilà. Donc, ils annoncent la parole de Dieu de manière orale. C'est pas des hommes de bureau. Et ensuite, éventuellement, ils écrivent. Mais il y en a qui n'écrivent pas. Pierre n'a jamais écrit d'évangile. Bon, il a fait ses lettres, mais il n'a jamais écrit d'évangile. À qui il confie d'écrire son évangile ? À Marc. D'accord ? Luc, il écrit l'évangile, c'est son évangile à lui ? C'est l'évangile de ?
De Paul.
De Paul. Voilà, Jean écrit, mais il écrit beaucoup plus tard. Certains, il y a une dispute par rapport à Jean. Il y en a qui disent qu'il a écrit très tôt. Bon, moi, je suis convaincu que c'est une maturation très longue, mais bon.
Ah, oui. Il faudra en parler avec René.
Et René, il dit quoi, lui ?
C'est très tard.
Oui. Moi, je pense.
C'est formaté pour orienter les croyants par rapport à marteler la vérité de ce qui s'est dit. Voilà.
Oui, bon, puis on va pas faire de l'historico-critique aujourd'hui, mais bon, voilà, il y a quelque chose de très maturé. Voilà, bon. Au fur et à mesure que je vieillis, je me dis, je comprends ce que c'est que la maturation, c'est quelque chose qu'on a reçu jeune, et puis que voilà, c'est quelque chose qui, c'est comme du bon vin, quoi.
Oui, bon.
Et donc, s'il a attendu tout ce temps pour écrire, c'est bien qu'il a d'abord voulu vivre et voulu vivre en communauté, voir comment sa propre communauté évolue, et puis donner une parole qui corresponde à cette communauté d'aujourd'hui.
On peut dire métaboliser, justement.
Métaboliser, ouais. Voilà, tout à fait. Donc les apôtres prêchent, ils vivent, ils enseignent, et ensuite, éventuellement, ils mettent par écrit, et il y a des milliers de choses qui n'ont jamais été mises par écrit. Et Saint Jean en témoigne, à la fin de son évangile, quand il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Et si je devais encore en écrire, tout ce que j'aurais à écrire, la terre ne condamnerait pas tous les livres qu'il faudrait. Ça veut dire que c'est monumental. Donc ça veut dire que finalement, cette écriture n'est qu'un rétrécissement, mais extrêmement étroit de la tradition. C'est très petit. Très petit. Alors que nous, dans notre tête, parce qu'on est dans un monde occidental où c'est l'écrit qui prime, bon, bah nous, on a la Bible, on a tout. Bah non, on n'a pas tout. Franchement, très peu. Et en plus, on n'a pas quelque chose de vivant en soi. Je veux dire, on a quelque chose de matériel, une feuille avec des. Voilà, un parchemin à l'époque. Bon. Donc, c'est pas du vivant, ça. Ce qui va faire du vivant, c'est que ceux qui ont écrit, ils ont été vivants, mais avant de les mettre par écrit, ils l'ont transmis. Et donc, ça va se transmettre. Ce qui est sur le papier n'est qu'un aide-mémoire. C'est un aide-mémoire pour transmettre beaucoup plus. pour ça que la tradition est d'une importance, mais colossale dans l'Église.
Et alors, justement, il y a deux éminentes biblistes, les apocryphes.
Oui, on nous en parlera aussi. Ah, ça fait partie du. Oui, non, c'est très important. Et quand vous regardez l'évangile de Luc, par exemple, qu'est-ce qu'il dit au début de son évangile? Ouvrez vos bibles, vous allez voir. Ça, on ne peut pas savoir tout ça. La première phrase de l'évangile de Luc, c'est magnifique.
Et c'est beaucoup en tant que tout, j'ai composé un récit des événements accomplis par nous.
Puisque beaucoup ont entrepris.
D'après que tu nous as transmis cette écriture des 18 témoins et fidèles qui sont devenus serviteurs de la parole.
Voilà. Donc vous sentez que déjà, à l'époque où Luc se met à écrire, déjà on pose la question. C'est quoi la solidité? C'est quoi la vérité? Comment on transmet? Quels sont les témoins? Regardez toutes les phrases, quoi. D'après ce que nous ont transmis, ceux qui furent dès le début témoins oculaires. Donc témoin oculaire, c'est pas seulement j'ai vu, c'est que j'ai participé, je suis de l'événement, je suis entré dedans, il y a une interaction, il y a une relation.
Je l'ai vécu.
Je l'ai vécu. Et en plus, témoin oculaire est serviteur de la parole. Voilà, serviteur. Donc témoin oculaire dans l'humilité, dans la réception, dans la métabolisation, voilà, c'est pas j'ai vu et puis je juge, hein, c'est pas du tout ça, c'est j'ai vu, je reçois et j'ai pigé quelque chose, quoi. J'ai pigé. Et donc il m'a paru bon, j'ai décidé moi aussi, après m'être informé exactement de tout, hein, il m'a paru bon de t'exposer à toi les excellents théophiles. Alors, on a souvent débattu, bon, moi, j'ai pas fait une étude très précise là-dessus, on pourrait, hein. On a souvent débattu que Théophile, c'est donc Théophilos, hein, ami de Dieu, donc ça s'adresse à tout chrétien qui serait ami de Dieu. Oui. Mais certains disent que c'est quelqu'un de précis. C'est nouveau, c'est une nouvelle découverte. Hein. Que c'est quelqu'un de précis, et que donc, pareil, Luc transmet de maître à disciple. Aussi transmet. J'ai décidé, bon, t'en as entendu parler depuis un certain temps, maintenant je l'ai par écrit. Voilà. Après, et comme les écrits restent, de manière, voilà, tout doit être exactement posé pour que ce soit avec sûreté et certitude que ce que tu vas entendre, c'est la vérité. Dès le début, il y a ce souci. Voilà, donc la transmission, c'est vraiment la massor, la massora, en hébreu.
De notre côté, tu disais tout à l'heure qu'il y a eu plusieurs...
Oui.
Plusieurs enseignés.
Oui.
Et donc, il peut y avoir, en fait, ça peut être Théophile au pluriel.
Oui, oui, ça peut être aussi
c'est pas tous les chrétiens de l'univers.
Oui.
C'est pas un bonhomme.
Oui.
Ça peut être. Ça
oui.
Peut être,
non. Oui. De toute façon, bon, ces genres de recherches, si tu veux, bon, certains disent que c'était un disciple précis. Bon, c'est des choses nouvelles qui. Bon, je fais pas ce genre de recherche moi parce que je voudrais me. C'est important, oui. Mais bon, je les laisse le soin à d'autres.
Un disciple probablement inscrit dans une communauté.
Voilà, voilà, bien sûr. C'est un peu comme tout à l'heure avec Timothée. Voilà, devant les autres, voilà ce que tu as reçu. Hein, voilà. C'est cette idée-là, quoi. Donc, il y a...
Oui, vas-y. Ça rejoint ce qu'on entend à l'Église et qu'on dit dans les psaumes, de ne pas dire à n'importe qui non plus la parole.
Voilà.
De ne pas non plus...
Absolument.
Absolument. Et de faire la
frelater, voilà, de donner les
paroles. C'est un message important, voilà. Voilà. Et quand on dit... Je ne donnerai pas
le mystère.
Le mystère de
la parole. Oui. Le mystère à des ennemis. Oui. Oui.
C'est ça. Alors, je pense que c'est parce que c'est une très vieille prière. Vous savez qu'au début de l'Église, il y avait ce qu'on appelle la discipline de l'arcane. Ça vous dit quelque chose, ce mot?
Non.
Donc, c'est un mot un peu savant. La discipline de l'arcane, donc ça, c'est quelque chose que dont les pères parlent. Hein. C'est justement, c'est pas pour rien que les catéchumènes devaient sortir.
Oui.
Voilà. Ça fait partie de la discipline de l'arcane. On n'accueillait pas tout le monde au saint mystère. Voilà. On appelle les saints mystères. Donc, quand on dit le mystère, c'est ça. Hein. C'est généralement dans les sacrements, et particulièrement le sacrement de l'Eucharistie. Quoi. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts. Parce que c'est tellement grand qu'on ne peut pas rentrer comme ça, boum, voilà, dans du divin et dans du mystère. Il faut y être préparément. Alors aujourd'hui, on ne respecte plus vraiment, malheureusement, à mon avis. Bon, oui. Ça c'est moi. Bon.
De notre côté, à l'époque aussi, on risquait sa peau aussi.
On risquait sa peau. Ouais. Donc, ouais. Et puis en plus, à l'époque, il y avait beaucoup de. Bon, il y avait un contexte qui fait que bon, ça se défendait peut-être plus qu'aujourd'hui, et aussi parce qu'il y avait beaucoup de contradicteurs des chrétiens. Ceci dit, c'est en train de revenir maintenant.
Oui.
Voilà, donc bon, et que voilà, on soupçonnait les chrétiens de tout un tas de choses, et de, voilà, donc il y avait une protection qui était peut-être nécessaire. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est juste pour dire qu'il y a quelque chose
de c'est d'en écrire pour toi.
Voilà,
c'est pas pour n'importe
voilà.
Qui.
Voilà,
voilà,
c'est ça.
Donc, de...
Voilà, c'est ça ce que je vous dis, il y a une idée de relation. Voilà. Et je pense que c'est pas pour rien que qu'un évangéliste se met à écrire. Il a une communauté, on le sait, hein, tout le monde le dit, on a une communauté précise en face. Et donc on va orienter ce mystère du Christ qu'on a découvert, qu'on a assimilé et métabolisé, on va l'orienter d'une certaine manière pour cette communauté. Parce que quelque part, on est issu de ce milieu-là. Matthieu est issu du milieu juif, il va l'orienter pour les juifs. Voilà. Et il sait de quoi il parle, puisqu'il est dedans. Mais lui, il a découvert le Christ, et donc il sait... Il va savoir comment exprimer dans une manière sémitique le mystère du Christ que Marc exprimera autrement et Luc autrement, et pourtant c'est toujours le même Christ. Et entre guillemets, s'il n'y avait pas une vraie tradition, il n'y aurait qu'un évangile. Donc c'est là où je rejoins de nouveau ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une liberté énorme. C'est qu'il y a quatre évangiles qui n'ont rien à voir. Alors les trois synoptiques, ils ont plutôt à voir. Bien que, si vous regardez bien, chaque synoptique a des choses qui sont propres.
Ah oui,
ils ne sont pas identiques, quoi. Et puis alors, genre, encore, rien à voir du tout, quoi. Bon. Et donc on se dit, mais alors, il y en a, qu'est-ce qu'il dit vrai, qu'est-ce qu'il dit faux? Parce que quand vous regardez dans les faits, il y a des contradictions. Et la tradition garde les contradictions. Moi, je trouve ça, c'est pour ça que pour moi, l'Église est grandiose. C'est que l'Église, elle n'a pas peur de ce truc qui a l'air un peu disharmonieux, comme ça. Elle n'a pas peur. Parce qu'elle sait que l'unité, la cohérence, c'est plus grande que des différences. Voilà. Alors ça, un jour, on pourra faire un travail là-dessus. C'est extrêmement intéressant. Et comme moi, je suis vraiment dans la lignée d'Olivier Clément, qui lui expliquait qu'il ne s'agit pas d'exclure, il s'agit d'inclure.
La lignée de
Olivier Clément.
Oui.
Donc il s'agit d'inclure, c'est-à-dire c'est pas ou Jean ou Marc, donc c'est et. Et c'est tout ça qui va faire qu'on va avoir une vision, j'ai envie de dire, des quatre côtés. C'est pas pour rien d'abord, quatre en plus, hein, les quatre, c'est très symbolique, hein, les quatre points cardinaux, les quatre éléments, etc. Donc on voit le Christ des quatre côtés, donc on a une idée bien plus globale que si on en avait eu qu'un. Donc c'est, moi je pense que voilà, la vraie tradition... C'est pas de l'idéologie. On n'est pas formaté justement dans une philosophie, dans un. Il y a une énorme souplesse en fait, et qu'il faut arriver à découvrir parce que telle qu'elle nous apparaît de l'extérieur, voilà, il faut un tout petit peu y pénétrer un peu quoi.
Je pense que c'est là, ce que tu dis, c'est là une des clés parce que le monde spirituel est fait de
et voilà, voilà.
Parce que absolument. C'est pas la mort ou la résurrection,
absolument.
C'est la mort et la voilà, résurrection en même temps. Et pour ça, c'est contradictoire.
Voilà, voilà. Donc ce qu'on appelle l'antinomie, surtout chez nous. Ça aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Bon, voilà. Alors ensuite, ce que souligne aussi le père Cyril, que je trouve extrêmement important, c'est le décalage entre le moment où les choses se passent et le moment où c'est mis par écrit. Donc il y a du temps. Donc le temps de cette métabolisation, le temps de cette appropriation personnelle, et puis le temps, alors pour moi, c'est vraiment le temps de l'esprit, quoi, le temps de la Pentecôte. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que nous sommes chrétiens et que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est qu'une fois qu'on découvre le Fils, il nous faut le Saint-Esprit pour pouvoir d'abord être en adéquation, pour pouvoir être un transmetteur qui soit en adéquation avec le message. Donc il faut le Saint-Esprit. Mais aussi pour pouvoir prendre le temps de maturer et j'ai envie de dire ne pas oublier. Parce que dans les, je veux dire, quand on apprend les tables de multiplication à l'école ou je sais pas quoi, bon, si on n'apprend pas un peu sérieusement, nous en oublions quoi. Alors que là, il ne s'agit pas d'apprendre du par cœur, puisqu'on n'est pas des perroquets justement. Il s'agit d'assimiler et de se faire sien et de pouvoir le retransmettre à sa manière, à soi unique. Et s'il y a des millions de chrétiens, mais c'est des millions, mais c'est quand même la même Christ, c'est la même cohérence, c'est le même message. Donc vous sentez là, c'est pour ça que c'est puissant quoi. Et donc, mais il n'y a qu'un seul esprit. Et d'ailleurs saint Paul en parle longuement hein, en disant qu'il n'y a qu'un seul esprit, mais il y a des charismes infinis quoi. Et donc comment avec le temps, le décalage du temps, je fais une expérience forte. Voilà, je remis cette expérience X années, et puis à un moment donné, ça sort. Ben, je suis désolée, mais c'est exactement ce que je vis, moi. Parce que j'ai ruminé des choses depuis 30 ans, et maintenant ça se sent, comme ça. Et je suis parfois stupéfaite, quoi, parce que je ne comprends rien. Parce que des fois, ça me traverse, j'ai même pas réfléchi. Et là, on est sûr qu'on est dans du vrai. Parce que justement, c'est pas du mental, c'est pas de l'humain. On n'a pas fait de l'humain, on n'a pas fait du psychologique. On est traversé par l'esprit, quoi. Et qui est l'esprit du Christ. Donc ça c'est capital. Et donc ce qu'il insiste en fait, persistant en disant que ce soit des lettres, que ce soit un évangile, c'est toujours la même parole que tous les disciples vont annoncer, même si chaque lettre, chaque épître, etc., va être distincte de la suivante, que les actes sont distincts, etc. Tout est distinct, mais c'est toujours la même parole qui est la parole du Christ 1. Et c'est toujours la même tradition. Donc, on récapitule. Il y a une vie qui est la vie divine, il y a un message intégré par des apôtres et par les disciples, les apôtres et les disciples des disciples, un message qui devient vivant dans celui qui le transmet, et ensuite il est mis par écrit. Ces premiers, les tout premiers écrits, vous savez qui, dans le Nouveau Testament, vous savez lesquels c'est ? Les tout premiers écrits. Avec René, vous devez le savoir.
C'est Paul. Non, lui.
C'est ça. Vous ne savez pas, les orthodoxes ne savent pas, mais les catholiques, ils savent.
C'est Saint Paul, c'est une des premières épîtres, je souviens. Ah, oui. C'est pas les Romains, ça va être peut-être Thessaloniciens, Corinthiens.
Oui, Thessaloniciens. C'est les années 50-51. D'accord. Bon. Si le Christ meurt en 30-33, on n'est pas tout à fait d'accord sur la date, enfin, on est plus à 3 ans près. Hein. Le premier écrit, c'est 50, il y a 20 ans d'écart. C'est énorme. Enfin, c'est énorme, mais en même temps, c'est très peu.
Il y a eu maturation.
Oui. Il y a eu maturation. Et puis il y a l'expérience de Paul, quoi. Et c'est pas un évangile, c'est pas je vais vous raconter l'histoire, je me mets dans mon bureau, c'est une lettre. Une lettre, c'est quoi? C'est une parole. C'est une parole qu'on fait à distance parce qu'on est loin et donc on est sur un papier, mais en fait c'est une parole. Donc il y a encore du vivant. Et quand vous lisez les lettres de Paul, je veux dire c'est vivant. Hein, c'est... Donc c'est les premiers écrits, c'est des lettres. Et c'est des lettres qu'on va en plus se partager. C'est-à-dire, une communauté va la lire et qu'elle va la filer à une autre.
Oui, oui,
voilà, parce que c'est tellement vivant que.
Leur communauté.
Voilà, en plus c'est leur communauté, bien évidemment.
Mais les juifs le disent, la bouche de Dieu est reliée par la bouche des hommes.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc, mais n'oublions pas qu'une lettre, c'est une tradition orale. En fait, c'est une tradition orale. Et ça, on le perd de vue, hein, parce qu'on est tellement dans un truc d'écrit, nous.
Une lettre, c'est une tradition.
Ah oui, c'est de l'oral. C'est-à-dire qu'une lettre, c'est un moyen que je prends pour te dire quelque chose que je voudrais te dire si j'étais en face de toi.
Que je t'ai peut-être dit et que je te redis en te l'écrivant.
Voilà, éventuellement aussi. C'est souvent. Mais on a des traces de ça.
Je sais pas, oui, je sais pas si c'est souvent ça.
Souviens-toi, etc., ce que tu as déjà raconté.
Voilà, tout à fait.
Donc c'est aussi et du vivant, et de l'oral, et un œil mémoire. Et un témoin. Parce que vous savez très bien que tous ceux qui s'enseignent le savent, il faut répéter et répéter et répéter jusqu'à ce que ça s'inscrive. C'est pour ça qu'on répète toujours la même chose dans la liturgie. À un moment donné, pouf. Et la répétition, il n'y a rien de plus de pédagogique que la répétition. Et nous, en tant qu'orthodoxes, on a bien passé pour savoir. Et que ça tourne en rond et puis qu'en fait, ça tourne jamais en rond parce qu'en fait, on avance. Et donc, c'est ni du rond, ni du linéaire, c'est de la spirale. C'est de la spirale des volutes d'ensemble. Voilà. Et nous, on est bien placés pour savoir ce que c'est.
C'est un sillon qui se creuse et ça n'a de sens qu'à la fin du chant. Voilà. Parce que sinon, voilà. C'est un truc. Quoi.
Absolument.
Peut-être dire un mot pour les personnes qui. Tu fais vision au Père Cyril Argenti.
Oui, vas-y, tu es mieux placé que moi pour en parler.
Mieux, non. Père Cyril Argenti était un prêtre, orthodoxe. Il s'est endormi il y a une vingtaine d'années. Ça fera 20 ans dans un mois et demi. Il était prêtre à Marseille d'une église de tradition grecque. Il y avait une très grosse église grecque à Marseille du fait d'une très grosse immigration dans cette région-là.
Qui dure toujours ce que tu dis bien.
Oui, il y avait à l'époque, et il y est toujours, bien sûr, c'est l'église de l'Assomption qui est venue de la Grande Armée à Marseille, qui est ce qu'on appelle l'église grecque de Marseille. Et il a été l'un des initiateurs des chevilles ouvrières d'une orthodoxie de langue française. C'est-à-dire qu'il a été parmi les premiers, peut-être le premier, à obtenir de l'évêque le droit de célébrer en français. et il a été le chantre de, en disant bon, on ne parle plus à ces jeunes qui sont des deuxième, troisième génération d'immigration, de celle de l'immigration des Grecs d'Asie mineure des années 20, mais aussi des massacres de Chios au XVIIIe siècle, etc., au XIXe siècle. Et il a dit il faut parler à ces gens dans une langue qu'ils comprennent. Et moi j'ai un témoignage qui est particulier, parce que c'est celui de mon épouse, qui a connu le père Cyril dans son enfance et qui a vu l'évolution. Elle a dit enfin, un jour j'ai compris ce que je faisais là et ce qui se disait là. Parce que le grec ancien n'est pas le grec moderne, et donc, à part quelques structures de phrases et quelques mots qui demeurent, c'était un peu comme ici, on recevait la lettre en latin. Pour les gens qui n'avaient pas fait de latin, ils ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient. Voilà. Alors, le père Cyril a été un grand personnage, il est mort, hélas, assez jeune, en ayant laissé une œuvre assez importante, notamment à travers quelques livres qu'il a écrits, dont un est préfacé par Père Claude. Et puis, surtout, il a participé à la vie des chrétiens à Marseille, à travers une association qu'il a contribué à monter, qui est Marseille Espérance, qui avait pour objectif de donner une parole spirituelle commune entre différentes communautés religieuses, chrétiens orthodoxes, œcuméniques et même interreligieuses, et au-delà. Et il a écrit ses interventions sur Radio Espérance.
Ce que je vous dis là, c'est
voilà,
une partie.
Ça fait l'objet de petits livrets qui sont vendus 4 euros au monastère de Solan, qu'on peut se procurer auprès de gens, qui portent sur des petits segments de la tradition orthodoxe, de la foi, et qui sont des mines de pédagogie active, enfin, qui parlent au cœur. Voilà. Ouais, voilà. Pardon de.
Et donc j'ai emprunté une partie de ça.
Il a créé la paroisse orthodoxe de Saint-Irénée. Avec beaucoup de combats d'ailleurs, et beaucoup de sous, et sa fortune personnelle. Sa fortune personnelle, oui. Il était d'une mère anglaise et d'un père grec. Il avait fait ses études à Oxford. Il a été un grand résistant. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il est cité comme juste parmi les nations par
Israël. Avoir plus d'éléments.
Voilà.
Là-dessus, ouais.
Et il y a l'histoire qui raconte dans N'aie pas peur, c'est quand il s'échappe de Digne, la prison de Digne, alors qu'il va être exécuté le lendemain, et qu'un des gendarmes français qui le garde là et qui se rend compte qu'il a un homme exceptionnel, et qui lui dit « Mais assomme-moi pour t'échapper. » Alors il lui donne un petit coup, il dit « Non, il faut que tu m'assommes en vrai, parce que sinon je vais être moi-même condamné. » Alors, il était contre la violence, même s'il pouvait être coléreux, donc il prend un truc, il tape dessus et il s'échappe, voilà.
Ouais. Alors, pour vous montrer que ces lettres, c'est vraiment de l'oralité, voilà ce que dit Irénée de Lyon. Donc, vous connaissez Irénée de Lyon, c'est un des premiers, hein, des premiers pères. Donc, Irénée de Lyon est le petit-fils de Saint Jean. Alors, je vous explique. C'est pour vous dire que voilà, on est la deuxième génération après les apôtres. Donc, il y a Saint Jean, il y a Polycarpe, disciple de Saint Jean, et Irénée, il a suivi l'enseignement de Polycarpe quand il était enfant. Donc, quand il était enfant, il a vu Polycarpe, qui était fils spirituel de Saint Jean. Donc, petit-fils.
Spirituellement,
oui. Spirituellement, bien sûr. Oui. Et donc, ce qui est important, c'est que lui, son témoignage, hein, deuxième siècle, fin du deuxième siècle, deuxième moitié du deuxième siècle, son témoignage est extrêmement puissant, puisqu'il a vu de ses yeux, celui qui a vu de ses yeux, qui a vu Saint Jean et qui a touché Saint Jean. Enfin, vous voyez, bon. Donc, vous sentez que déjà, dès les premières générations, on a ce sentiment de cette continuité, de cette. Voilà, vraiment de cette continuité des générations d'apôtres, de lignées, de disciples. Quoi. Alors, voilà ce qu'il dit. Donc, c'est dans Démonstration apostolique, dans la prologue. Que ne nous est-il donné d'être toujours ensemble et de nous aider mutuellement et d'alléger les occupations de la vie d'ici-bas par des causeries fréquentes sur des sujets utiles. Toutefois, comme à l'heure actuelle nous sommes loin l'un de l'autre, nous ne pouvons que nous entretenir un peu par lettre, et nous nous hâtons de le faire et de t'exposer en abrégé la prédication de la vérité. C'est magnifique, hein ? Voilà. Donc lui, c'est, il dit, bon, bah, il faudrait qu'on soit ensemble, qu'on en parle, qu'on, voilà, qu'on vive, bon, on est loin, on va écrire. Mais vous sentez que l'écriture est un pis-aller, en fait. C'est un fait de remplacement, un succès d'année, de cette relation vivante, orale, qu'on a avec ses disciples, avec ses proches. Alors maintenant, on va reprendre un tout petit peu sur Paul. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de mail, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'SMS, il n'y a pas de Skype, il n'y a pas toutes ces choses-là.
C'était la zone.
C'était la zone.
La pêche.
Voilà. Et que donc on a fait quelques parchemins et puis que c'est très compliqué pour se retrouver quand même. Bon. Et donc voilà ce que dit Paul dans la première aux Corinthiens. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, vous voyez, il y a des étapes, hein, et dans lequel vous demeurez ferme, donc cette fermeté, cette fidélité, hein, dont on a déjà vu tout à l'heure, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Vous voyez, toutes les précautions dès l'an 50, alors qu'on n'a pas encore d'évangile, on n'a pas encore d'écrit. Sinon, vous auriez cru en vain. Il faut poser chaque mot, hein. C'est... Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour les péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas et aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est paru à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi comme à l'avorton. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer ici, Paul ? C'est que c'est le dernier d'une file, et il cite tout le monde, en premier Céphas, Pierre, hein, le fondement de la foi, et puis tous les 12, et puis les 500 frères, et puis, hein. Donc il y a une lignée. Dès l'épître de Paul, premier écrit de tout le Nouveau Testament, Corinthiens, Thessaloniciens, enfin, c'est le deuxième écrit, mais enfin, bon, c'est dans les premiers, on a déjà cette conscience, moi c'est ça qui m'a le plus frappé quand j'ai travaillé ce domaine, cette conscience que la vérité peut se perdre, qu'il faut garder ce qui a été transmis, sinon on a cru en vain, sinon on n'est pas sauvé, et que ce que je vous ai transmis en premier lieu, c'est ce que moi-même j'ai reçu. Donc cette fidélité à une réception et à une transmission exacte de ce que j'ai reçu. À travers une personnalité qui est celle de Paul et qui ne sera pas la même que celle de Pierre. Et c'est la raison pour laquelle il faut que plusieurs personnalités soient sous nos yeux, de manière à ce qu'il y ait cette unité dans la diversité. Donc on est bien dans l'inverse total de l'idéologie. Hein, où c'est une seule tête et tout le monde pareil. Là c'est personne pareil, mais une seule tradition, une seule vérité qui est le Christ, c'est une tradition. Ça va ? Donc, on les connaît ces textes, hein, mais vous sentez, on essaie d'y rentrer un peu plus.
Oui, mais cette première phrase où il pose le cadre, finalement,
oui.
Moi, elle me parle de tradition, parce qu'on voit que c'est taillé comme un diamant,
oui.
Du mot,
oui.
Et chaque fois qu'effectivement on a le sentiment que chaque fois qu'on enlèverait un mot,
oui.
On travestirait,
oui.
Le message, parce que la globalité n'étant plus, la plénitude n'étant plus,
oui.
Nécessairement on est dans quelque chose qui est autre,
oui.
Et on part dans la dérive,
oui.
Et moi ça me parle de ça, si tu veux, quand j'entends ça, et c'est tout le mal que j'ai. Alors moi je parle modestement là en tant que prêtre, où tu te dis mais à un moment donné ça c'est long, on le dit deux fois, pourquoi, enfin tu...
ouais.
Imaginons que ça pourrait traverser un esprit un jour de fatigue, hein, voilà. Et immédiatement tu te dis non mais si je l'enlève, ou si je fais autrement, ou si je fais mal le geste, ce que je vais dire aux fidèles, moi-même n'étant que l'un d'entre eux, mais étant devant, en fait, pour célébrer, je vais induire les gens dans l'erreur, les faire entrer dans l'erreur, plus exactement. Les faire entrer dans l'erreur. Et c'est vraiment quelque chose que des fois on a du mal à transmettre à des frères catholiques et protestants, a fortiori, alors, hein, qui sont eux dans une interprétation, quelque chose de, qui est très vivant, où le Seigneur est, mais qui, d'un point de vue gestuel, décorum et tout ce qu'on veut, n'a rien à voir. Et on a du mal à partager ça. Mais moi, j'ai ce sentiment-là en tant qu'orthodoxe.
Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Enfin, on en reparlera. Parce que c'est lié à toute la dimension de la tradition orale, parfaitement et strictement transmise, excusez-moi le terme, presque par cœur. En fait, il y a deux notions. Il y a le fait que je métabolise, je mûris longuement quelque chose que j'ai reçu, et puis voilà, qui devient... Et puis il y a le fait que je reçois in extenso des paroles. Et je les répète in extenso. Et c'est pas pour rien que dans ce XXe siècle se déploient toutes ces écoles de mémorisation, dont la première figure de proue est le grand jésuite qui s'appelle Marcel Jousse, qui est un très très grand, qui est un anthropologue, qui a travaillé sur les Incas, les sociétés les plus reculées d'Amérique et d'Afrique, pour voir comment ça fonctionne dans des sociétés où il n'y a pas d'écrit, comment la tradition orale fonctionne. Et donc, cet apprentissage par cœur. Par cœur. Les mots pour mots. Et cet apprentissage par cœur qui était déjà là au moment de l'Ancien Testament, mais où, le soir à la veillée, les anciens raconte à tout le monde encore la même histoire, et si jamais il y en a, comme il y a plusieurs anciens, si jamais il y a une faute, il y a une correction. Ah non, c'est pas ce mot-là.
Tu sais, ça me parle de choses très réelles aujourd'hui dans la l'ordination d'un lecteur. J'y ai assisté. L'évêque ouvre l'évangile n'importe où et donne à lire au lecteur. Pourquoi ? Parce que ceux qui prétendaient être lecteurs connaissaient l'évangile verset par verset, Ancien et Nouveau Testament, par cœur, totalement. Et donc on vérifiait au moment de l'ordination s'ils savaient bien lire. Et bien évidemment, en ouvrant le livre au hasard et en lui disant qu'est-ce qui est marqué là, s'il ne sait pas lire, il ne peut pas le dire. Alors que si on lui dit Lettre aux Éphésiens 5, verset 12, il enchaîne immédiatement. Voilà. Donc, là, vraiment, là, on est en phase directe, même si effectivement l'ordination du lecteur ne renvoie pas au premier siècle, mais bien plus tardivement, mais on est là. Quand on vit des choses comme ça, on est en prise directe avec 15 siècles auparavant.
Sauf qu'il se promène vers Gilles et qu'il te fie en grec. Donc, effectivement, oui. Je dis.
c'est vrai, tu as raison, je revois le bonhomme partir.
Et j'ai eu un épisode sympa à la place, c'est le premier bouquin en français qu'ils ont
fait. C'est vrai. Sache que deux mois après, ils m'ont fait la même chose. Pour des matines, étant le dernier ordonné diacre là, ils me donnent à lire pendant les matines la lecture des autres, etc. Et ils me filent le bouquin en grec.
Tu connais très bien le grec.
Oui. Les plats, ce plat. Tarama et autres, mais pas tout. Pardonne-moi. Je ne sais pas, il est 1h20, oui, on est peut-être à l'heure de faire la pause.
Bon, on va faire la pause, puis je reprendrai un peu ça, puis je rebondirai sur la problématique de qu'est-ce que c'est un évangile canonique, qu'est-ce que c'est un évangile non canonique.
Alors, mais ça peut nous dire quand est-ce qu'on reprend.
Alors, il est 1h20.
Ok, voilà, je vous